Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mademoiselle.com.
Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai le droit de pas vraiment travailler.
C'est vrai.
Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher.
Ah ouais,
c'est normal. C'est laisse-moi kiffer.
Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Mathis?
J'ai plus envie.
Daddy.
Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
Ça peut plus être agréable ici. Merde.
Yo, Guillo.
Je veux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable.
Je suis idiot.
Non.
À La Réunion, à l'île Maurice.
Vous avez envie de kiffer, bah m'écoutez pas.
Hola.
Bonsoir, bon après-midi, bonne matinée. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, épisode 199, bientôt la 200e, et du coup ça tombe bien, puisque la 200e sera en live sur Twitch, puisque ce sera le dernier jeudi du mois de juin 2022. Si vous écoutez cet épisode en janvier 2028, désolé pour vous, le live est passé, mais vous l'aurez sûrement en replay. Car oui, le 30 juin à 20h, nous sommes en live Twitch pour le LMK numéro 200. Trop cool!
Techniquement, c'est le LMK numéro 201, parce qu'on a fêté le 200 en live au Grand Contrôle, mais c'était pas... au moment où c'était l'épisode 200. Restez avec moi, ça a du sens.
Okay. On a deux l'épisode... Vous voyez Tenet de Nolan, c'est ça qui se passe là. Donc on a l'épisode 200 existe, mais pas encore, en même temps. Et c'est du coup, on va ça. Le faire, mais on l'a déjà fait.
Exactement. Et ce qui va sortir du coup la semaine suivante sera pas le tweet du 200, mais le live du...
Ok.
On a réinventé le concept de temps. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer.
Bon anniversaire, Laisse-moi kiffer. Le podcast.
Si vous avez compris, envoyez-nous des commentaires parce que nous on comprend rien.
Notre conception de la linéarité du temps. Finalement,
oui.
Car c'est un podcast de physique quantique.
Exact.
Je suis Mimi Hegel, je suis animatrice de Laisse-moi kiffer et ça me ravit. Et je suis encore une fois entourée d'une dream team que nous allons connaître un peu plus comme chaque jeudi grâce à une question savamment choisie en l'honneur de celle que vous connaissez pour ses jingles de qualité depuis des mois maintenant. J'espère que vous kiffez. J'ai cru voir passer quelques mèmes sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer qui évoqueraient qu'ils ne font peut-être pas l'unanimité ces jingles. Personnellement, je les adore, mais en même temps, je les ai écoutés une fois et après plus jamais. C'est un long moment de vie.
La violence.
En l'honneur donc de Marine Normand qui organise ce soir chez Humanoïde une soirée karaoké, nous allons parler karaoké.
Il faut dire que les gens n'ont jamais entendu deux fois le même encore, hein, donc je ne sais pas de quoi ils se plaignent, c'est chaque semaine une découverte.
Jusqu'à l'épisode 300, il y aura des découvertes.
Oui. Et c'est moi qui ai passé des heures en studio en tant que Marine tous les chanter, et sachant que la dernière fois qu'on a fait ça, on a pendant 10 minutes, Marine m'a hurlé dessus des jingles qui étaient formidables, et au bout de 10 minutes, j'ai réalisé que ça ne tournait pas.
Non.
Et qu'on avait passé ce moment de solitude.
Mais c'est juste un moment de
gratuit.
C'était juste gratuit, mais est-ce que l'art n'est pas censé être gratuit?
Je sais pas, j'ai pas de dread.
Dis ça au marché.
Aïda est devenue de droite, moi je suis pas là pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe?
Waouh!
J'ai mal au ventre!
J'ai pas de d'impôts!
J'ai mal au ventre, du coup je suis de droite, ça se tient. Bref! Du coup, le monde veut savoir, chère équipe, en commençant par toi Mathis,
oui.
Quelle chanson de karaoké es-tu?
Waouh, c'est. Ouais, ok. Putain, en commençant par moi. Alors, il faut savoir un truc sur moi, c'est que je suis la pire personne par rapport au karaoké, parce que je te fais très peu attention aux paroles des chansons. Ce qui fait que si je passais dans N'oubliez pas les paroles, je ferais juste des sourires niais à Guy en disant ça va.
C'est absurde ce que tu me dis. C'est comme si tu me disais quand je lis un livre, je fais très peu attention au texte, tu vois.
Et bah, je fais très attention à la musique, je fais très attention à tout le reste, les productions, la façon dont la personne chante, etc. À la limite, le refrain, je vais le baragouiner, mais vraiment le reste, nada.
Okay.
À part du Benabar. Oh, je suis du Benabar.
T'es
je
du
suis,
Benabar.
On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi là, t'es les moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis, ouais, je
ça
suis
définitivement bénie. Ça te va bien de chanter ça.
Oui, c'est vrai.
Des trajets très longs en voiture avec mes parents qui avaient des goûts musicaux éclectiques.
Pas tant, vraiment, pour la génération de tes parents, c'est totalement on-brand, Benabar
oui.
Dans la vague.
C'est vrai.
Mon père avait grave des bons goûts, genre, il nous mettait du MC Solar, du Norah Jones, c'est tout dans la voiture, je me rappelle, il venait nous chercher régulièrement enfin mes plus grands souvenirs de trajet en voiture avec mon père, c'était en Guadeloupe, quand il venait nous chercher de l'aéroport pour nous amener chez lui, à l'époque où il vivait en Guadeloupe. Et ça durait genre 45 minutes, et c'était des routes hyper sinueuses, et du coup on avait à moitié envie de vomir, à moitié on s'ambiançait sur Norah Jones, c'était trop stylé.
Incroyable.
Fin de la parenthèse, excusez-moi.
Beaucoup plus classe que ma mère qui parfois pétait un câble et me faisait écouter Kali qui, avec le recul, a des paroles qui sont un peu des paroles d'incel, désolé aux fans de Kali qui nous écoutent,
oui.
Mais quand j'ai repensé aux paroles il y a peu, j'étais en mode...
On vit mal le rejet, j'ai beauté de Kali.
Voilà.
Je crois que j'ai
vraiment beaucoup de gros mots destinés à des meufs qui juste ont décidé de le quitter. Et souvent, il dit t'es vraiment une connasse parce que t'as 20 ans de moins et en plus tu me largues. Et je suis là,
J'avais
jamais fait gaffe. Ça, un pattern.
Je vais
réécouter. Ah.
Mais pourquoi es-tu Benabar au-delà du fait d'avoir vraiment claqué du Benabar sans préavis, sans réfléchir?
Parce que c'est le karaoké des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui peuvent se reposer confortablement sur les paroles et qui n'ont pas besoin de lâcher leur best contrute de je sais pas quoi. Enfin, genre,
je suis Benabar parce qu'il chante mal.
Oui, bah, il parle, écoutez, Serge Gainsbourg, c'était pas un chanteur non plus et personne lui fait un procès, tout ça parce qu'il est décédé. Quoi ? Benabar, Unproblematic King, je l'adore.
C'est quoi ? Je me demande si c'est pas vrai.
Mais c'est tout à fait vrai. Il a fait une chanson qui s'appelle Politiquement Correct et je suis d'accord avec tout ce qu'il dit.
Je vais pas m'engager trop loin, mais ok, Benabar Unproblematic King. Incarné. J'espère que ce sera le titre de cet épisode, Benabar Unproblematic King.
Si tu nous écoutes, Bena, je t'aime très fort. Monsieur Barr, vous êtes le meilleur.
En fait, il donne l'énergie de Charlie Piouf, je sais pas si vous voyez.
Pourquoi ce nom, c'est
quoi,
un soupir?
C'est qui?
C'est Charlie Pugh, c'est un mec qui a fait...
Il est compliqué cette épisode.
Avec Selena Gomez.
Est-ce que c'est related to Florence Pugh? Et
non,
merci de m'avoir appris comment on prononce ça parce que j'avais...
Je crois que Florence Pugh, c'est G-H à la fin, alors que Charlie Pugh, c'est T-H à la fin.
Ah, d'accord.
Ah, c'est...
Et Charlie Pugh,
c'est pas le même soupir.
Puff, comment tu dis?
Je sais pas, j'ai dit fa et...
Bon, dites-nous dans les commentaires de l'MK comment ça se prononce les... TH versus GH.
Écrivez-nous à l'écrit comment ça se prononce. Allez-y.
Mais Charlie Pugh, il a fait quelques balades assez stylées. Mais là, en ce moment, il buzz, comme disent les vieux, sur TikTok parce qu'il fait que des TikTok archi horny for no reason, tu vois. Genre, c'est très gênant.
Soyons horny on main. Let's go.
J'essaye, mais en fait, Marine, directrice générale, elle a pas de me dire Anthony, on voit tout ce que tu likes, vraiment tout.
Oups, c'est vrai.
Parfois, je vais sur le compte Instagram de Lipace et je vois liké par Anthony Vincent. Et ça me rend heureuse qu'on soit connecté par notre horniness envers Daddy Lipace. Aïda, quelle chanson de karaoké es-tu? J'espère que ce sera un truc bien de gauche, tu vois, genre Berrurier Noir, let's go quoi.
Ou Benabar.
Mais dis quand même, bon, de gauche quoi.
Pardon.
Non, parce qu'en vrai, les chansons de karaoké, c'est pas trop la vibe.
Ça m'étonne
la vibe,
pas.
Truc d'extrême gauche, parce que je pourrais être éventuellement une chanson des Berruriers Noirs si tu m'avais dit quelle chanson de fermeture de bar es-tu ?
Et là, non, mais un petit hymne de nos campagnes de trio.
Non.
En karaoké, ça marche.
Il faut partir, madame.
Ou celle sur la beuh, là. Je veux fumer de l'herbe de qualité. En karaoké, ça fonctionne.
De l'air ou de l'herbe ?
De l'herbe.
Je
ouais,
que...
c'est assez explicite. Ok, d'accord.
Ah, c'est oui, il y a 20 ans, trio était vraiment. On va faire un tube qui dit légaliser la beuh, s'il vous plaît. Voilà, ça va faire des sous
ça
dans
passe,
la sécu.
Ils sont blancs, quoi.
Et ils ont des dreads.
Et des chapeaux.
Ils ont des dreads. Ah.
Il y en avait au moins un qui avait des dreads, c'est obligé.
Et un avec un chapeau.
Concentrons-nous, c'est un train long. On est à l'étape 2-2, le monde veut savoir.
Je chanterai pas trio en karaoké, même si, vu le nombre de fois où je les ai vus en concert quand j'étais adolescente, je pense que j'arriverais très bien.
Quoi ?
Mais je pense qu'une bonne chanson de karaoké qui incarne vraiment mon énergie, c'est Call Me Maybe.
Ah yes,
oh
j'ai une
là
image
là.
Mentale de toi en train de tout donner sur Call Me Maybe et ça m'a rendue immédiatement tellement heureuse.
En plus, je l'ai dans la tête tous les jours de ma vie.
Ah,
et ouais, non, je sais pas. C'est facile à chanter sur du karaoké, mais en même temps, tout le monde est un peu content. Tout le monde a envie de chanter avec.
Tout le monde aime ironiquement Call Me Maybe, mais du coup, au final, un peu premier dog, en fait, c'est un banger,
exactement.
Tu vois. Exactement. Il faut le dire.
Ces clips, il fait un car wash, non? Enfin, il fait un car wash.
Oui, enfin, c'est tout un truc où c'est son voisin et c'est hyper
sexy. Ouais, il est hyper sexy,
un peu
chelou,
le clip.
D'accord.
Exactement.
Mais tu seras moi ce soir au cas où on savait pas qui c'était.
Mais cette meuf est extrêmement talentueuse. Écoutez son album Emotion si vous voulez, la version de luxe a fortiori. C'est extraordinaire. Elle a une chanson qui s'appelle Julian aussi, qui est très bien sur l'album d'après, il me semble. Mais sur Emotions, vraiment, il y en a une qui s'appelle Hot. Le cœur est un muscle. J'ai un accent trop pourri, donc vous allez chercher
Hot
en anglais.
Ouais.
Et elle est vraiment trop bien.
Le podcast
genre, ma
du
philosophie
flex,
de vie, en fait. C'est genre, n'oublie pas que ton cœur est un muscle et que tu peux le travailler pour l'endurcir.
Wow.
Et mieux ressentir et que ça fasse moins mal après.
Mais j'ai l'impression que cette chanteuse, c'est un peu une artiste maudite. Elle a fait
exactement.
Call Me Maybe, dont tout le monde s'est foutu de la gueule jusqu'à ce que ça fasse 1 milliard de vues sur YouTube. Et après, c'est-à-dire elle a fait des trucs bien et personne les a écoutés.
Grave
de
ouf.
Et tout le monde a dit, ouais, bref, c'est la meuf de Call Me Maybe. Quoi.
Pour la réhabilitation de Carly Rae Jepsen, Unproblematic Queen.
Grave de ouf.
De son King Benabar. Sur le trône des problématiques artistes.
Unproblematic couple, vraiment, on crée des couples improbables.
Work, name,
so call me maybe, ou alors peut-être n'appelle pas, on annule, on improvise.
Non, on va pas faire un
mix.
Stop, stop.
Ouais, non, elle est brillante, masterclass de pop musique trop addictive et sirupeuse, juste ce qu'il faut. Et j'avais un kiff qui avait été refoulé par Mathis par le passé sur les youtubeurs musique trop géniaux à suivre et à écouter.
Qui avait été refoulé par le passé.
Non, mais parce que je t'en propose trois à chaque fois.
Oui, voilà. Donc peut-être. Donc tu la refoulé de façon à ce que je passe pas pour Staline, si tu veux.
Laisse-le être de mauvaise foi, c'est Anthony, c'est pour ça qu'il est là aussi.
Wow. Et tu te fais déjà passer pour Staline tout seul, Mathis.
J'ai pas de moustache, laissez-moi, je suis un berbe.
Et il y en a un youtubeur, du coup, micro-kiff en passant, mais Guillaume Adine, qui s'appelle Popslash sur YouTube, qui fait des super vidéos. Et aussi Kal Ali sur YouTube, qui fait des super vidéos, dont un truc sur Carly Rae Jepsen, à quel point elle a été sous-cotée, en fait, alors qu'elle est super géniale, brillante.
Je vais aller écouter.
Regardez ces vidéos YouTube.
Bravo
de ce genre
de
qualité.
Pour ce micro-kiff glissé en toute nonchalance dans l'intro de Laisse-moi kiffer. L'air c'est un talent et c'est le talent de tout
merci.
Vincent.
Et si quelqu'un connaît des femmes youtubeuses musique sur YouTube, je suis preneur. Oui, youtubeuse sur YouTube.
T'as pas une place de parking à louer, un truc?
Non,
passé,
ah, je cherche un appartement d'ailleurs, mais on en reparlera dans un prochain kiff.
Très bien, très bien. Quelle chanson de karaoké es-tu,
ah oui,
Anthony Vincent?
Excusez-moi. Alors, il faut savoir que j'aime trop chanter, mais très mal. Et pour moi, chanter dans un karaoké, c'est surtout du cinéma, plus que de la musique finalement.
Oui, c'est du playback.
Et donc, non, je chante
pas
vraiment.
Pas du playback, mais c'est un peu comme les lip-sync de RuPaul, quoi. C'est ouais, l'idée n'est pas de chanter bien, c'est d'en faire trop.
Exactement.
Ça veut dire qu'on va faire des grands écarts au karaoké.
Oh, ah, j'ai pas le pantalon pour, mais.
C'est le seul problème. Bien sûr, ouais. C'est pour ça, j'ai pas la bonne tenue pour faire un grand écart que je peux faire avec mon corps, bien sûr.
Accessoirement, je ne sais pas faire un grand écart, effectivement. Je n'y avais pas pensé. Mais j'aurais pu le tenter. Non, mais du coup, je vais chanter du Azealia Banks à 3000% Problematic Queen pour le coup.
Waouh,
ouais, grave. Audacieux, le contraire de Carly Rae Jepsen.
Ouais, exactement, le contraire. C'est genre. J'en profite pour être une bad
dans ce podcast.
Je pensais que le contraire c'était Francis Lalanne, mais j'accepte.
Pas du tout.
Non, mais si vous connaissez si vous ne connaissez pas, écoutez Ice Princess de Azealia Banks, c'est genre la badass bitch. Genre j'adore cette chanson, je vais la chanter ce soir, c'est obligé au karaoké de Marine. Et aussi j'aime trop chanter genre Dalida, Je suis malade, reprise de Sardama.
Putain.
J'aime trop chanter des chansons genre hyper hyper drama quoi.
Oh là là.
Genre soit bad bitch, soit pleureuse et solée, veuve. Enfin voilà, et que des trucs comme ça, genre okay. En me donnant à 3000%, du coup, je suis plus un registre de overdramatisation qu'une chanson.
Tu fais ton propre clip, quoi.
Ouais, non mais le clip, le long métrage, tu vois. Tu vois, Michael Jackson qui fait Thriller qui dure 15 minutes, Lady Gaga qui fait Bad Romance qui dure 10 minutes, et tous ces trucs-là, bah moi je fais une chanson qui dure 20 minutes dans ma tête. Voilà.
Toujours trop.
Toujours trop.
C'est la devise. Très bien, merci beaucoup.
Et toi,
à tous.
Et toi
moi, je n'ai pas eu à réfléchir car je suis bien évidemment sous le vent de Garou et Céline. Je fais les deux.
En potriloquie.
Même quand ils se chevauchent, je fais ce canon raté parce qu'à une voix, ça ne marche pas.
Jeff Panaclock de la rédac.
Ah oui, vraiment, je suis. Invitez-moi à vos bar mitzvahs, à vos anniversaires. Voilà, je fais animation double voix. À chaque fois que je le fais, donc généralement à 2 du mat, en ayant abusé de l'eau de vie de verveine avec mes potes, on se dit ok, vous faites Garou, nous on fait Céline ou l'inverse, mais à chaque fois, on finit tous par tout chanter parce que déjà on est ivre et aussi parce que c'est juste marrant. Oui. Et parce que finalement, je suis une personne voilà, qui a été un peu ambivalente sur les codes genrés, tout ça. Donc une chanson mixte avec deux voix, masculine, féminine, ça me va bien. Et aussi parce que ma culture musicale s'est arrêtée en 2005, rappelons-le. Donc je ne connais pas de titre plus récent. Je suis donc sous le vent, un banger de karaoké qui, j'espère, ne passera jamais de mode.
Mais ça, c'est une injustice du karaoké, c'est qu'il y a des gens qui ont pas. On n'a pas tous la même culture musicale. Et du coup, quand tu veux chanter des trucs trop récents, il y a moins de chances qu'un maximum de gens connaissent. Je sais pas
si
je veux
dire. C'était le grand drame quand on faisait les gros stuff Mademoiselle, qui étaient des soirées karaoké et dance floor. Pour les DJ, et même pour Marie qui organisait les playlists karaoké, c'est que. On essayait de mettre des trucs un peu plus récents aussi pour, dans l'espoir d'avoir un public un peu moins trentenaire peut-être, avec un peu plus de jeunes personnes. Mais en fait, les gens, ils veulent les Lacs du Connemara, tu vois, et ils veulent danser sur des sons des Black Eyed Peas de 2007, pas sur des nouveaux sons de pop stars un peu moins connus, même des trucs, des gens qui font des millions de vues sur leurs clips. Mais en fait, c'est des millions de vues par des gens qui ont 18 ans. Si ton public, il a 28 ans, vraiment... Olivia Rodrigo, il connaît pas, il s'en fout, tu vois. Oh, tu lui mets un Rihanna de 2008, il est content par contre. Donc c'est compliqué, mais j'entends ce que tu veux dire. C'est pas toujours facile de moderniser les playlists karaoké.
C'est banal, mais... ouais. J'étais à mon EVJF et genre j'ai mis du.
Je vais pas dire ton EVJF comme si c'était le tien à chaque fois. Vraiment, ça fait trois fois.
J'étais à l'EVJF que j'ai organisé.
C'est vrai.
Et du coup, genre, j'ai dû pré. En fait, comme c'était dans un château où il n'y avait pas de réseau, je devais télécharger les chansons avant.
Rich people problems.
Ouais, exactement.
And here we go again.
Et du coup, j'ai dit, envoyez-moi vos chansons et tout. Personne ne l'a fait, évidemment, car les gens s'organisent comme des brêles. Du coup, j'ai téléchargé plein de trucs que moi, je trouvais bien, tu vois. Des années 80 à 2020. Et les gens, ils ne connaissaient pas, genre, Beyoncé, Rihanna, Ariana Kamura.
Rihanna quand même.
J'ai pas pu vous mettre Weshden, j'avoue. Bon, mais ça, encore à la rigueur, je veux bien, tu vois. Mais ouais, Rihanna, même ça, elle connaissait bof, tu vois. Enfin, ça m'a fait bader. Elles ont même pas 30 ans. Bref, qu'importe. Mais je respecte tous les goûts.
Peut-être qu'elles sont avec Olamide Benabar.
Mais oui, moi, peut-être. J'ai l'impression, sur ce sujet, que quand on était un peu jeune, genre quand on était gamin, je sais pas, entre 15 et 20 ans, la vision de nos darons qui étaient obsèdes par des chansons des années 80 et ils étaient tout le temps en boucle, ouais, les années 80,
les
machin.
Les démons de minuit et tout.
Voilà. Moi, je trouvais ça un peu naze et j'étais vraiment en mode, mais c'est quoi leur problème avec ça? Et on est devenus les mêmes personnes.
Quand les sons de ton adolescence arrivent sur Nostalgie, ça fait un petit coup dans la gueule, hein. Franchement,
c'est en termes sur Nostalgie maintenant.
Mais justement, j'en ai parlé avec Maëlle de la rédacte de Mademoiselle qui me disait non, Nostalgie n'avance pas tant que ça dans le. Non, attendez, peut-être que je comprends avec Chérie FM.
Non, mais je pense que c'est possible. C'est-à-dire, il y a toujours plus de sons des années 80, mais parce que nous, on écoute moins Nostalgie, tu vois, on écoute moins la radio, tout simplement.
Pour l'instant.
Mais il y a des sons, genre, je sais pas, Torn de Nathalie Imbruglia, que je me souviens avoir vu le clip en mangeant mes chocs à pic, ça passe sur Nostalgie. Tu vois. Très bonne
chanson. C'est le seul homme dans le clip que je tolère porter un pull à col V sur un t-shirt à col rond.
Je vois de quoi tu parles et c'est si précis. Ok, mais on va avancer dans ce podcast. On est en train de digresser. On fera un podcast sur le karaoké si vous voulez. Voilà,
oui,
ça, fera 5 heures,
ça s'appellera le karaoké.
Ah oui, pardon, Aïda. Oui, du coup, nos darons.
On est devenus nos darons, mais pour enrichir ta théorie, enfin, c'est une autre théorie, mais en lien avec la tienne, c'est qu'à l'époque de nos darons, il y avait quelques radios et tout le monde écoutait les mêmes radios. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement d'offres musicales disponibles n'importe comment. Avant, nous, quand on grandissait, à peu près. On avait des chaînes, on regardait tous les mêmes clips à la télé sur W9, Energy 12,
Virgin 17. Oui, t'avais 15 titres qui passaient en boucle partout, quoi.
Et M6, et MTV, pour les gens qui avaient les câbles. Moi, j'étais pauvre, j'avais la TNT.
Moi, j'allais chez ma voisine.
Moi, mes parents, ils ont grugé et on avait le câble.
Mais du coup, on a grandi en écoutant tous Diams, Vita, etc., tous et toutes. Et là, en fait, l'offre est tellement énorme que si tu veux écouter que tes playlists musicales curatées par Spotify, par l'algorithme qui connaît tes goûts et qui te propose que des choses dans ta bulle de goût, bah, tu ne connaîtras jamais Weshden, en fait.
Sauf si t'as TikTok.
TikTok, oui, c'est vrai. Très juste.
Peut-être que les futurs tubes de karaoké, c'est les sons qui buzzent sur TikTok.
Ouais, j'étais au concert de Weshden, je peux vous dire que tout le monde connaissait les paroles par cœur. Hein.
bravo.
Moi aussi.
Et il avait 15 ans.
Ouais. On avance, j'ai perdu la main sur cette équipe, ça m'a rempli. Ok, c'est l'heure des commentaires. On reprend donc de ton côté, Mathis. As-tu un commentaire?
Attends, moi, j'en ai 14,
les gars, c'est un Google Doc, il est hyper long. Hein. Ça va être un long épisode. Mimi is back, il n'y a plus de gestion du temps.
Je vais essayer d'aller extrêmement vite parce qu'il y a plusieurs commentaires que je veux lire. Alors, l'hibernation en été.
Moi, j'avais pas le droit.
L'hibernation en été, ça existe, ça s'appelle l'estivation. Voilà, ça m'énerve, c'est un fun fact, je vous le glisse ici. Il y a une anecdote, je vous ai demandé d'envoyer des anecdotes, vous en avez envoyé, c'est très rigolo.
Anecdote par un ordinateur.
Anecdote de Ore of the Wood qui nous envoie anecdote. Quand j'étais ado, j'étais parti faire de la descente de la. Attends quoi, la descente de la Lesse. Ah, ça doit être une rivière, un fleuve, un machin, j'en sais rien.
J'espère.
Voilà. En kayak.
On dirait que tu peux en avoir
l'alcool.
Une rivière, un fleuve, on sait pas.
C'est un peu long. C'est déjà un peu long comme épisode, mais du coup, rush pas. Tu vois. C'est déjà perdu. L'intro, elle fait 25 minutes. Donc là,
c'est pas faux. Donc, elle était partie faire la descente de la Lesse. Voilà.
J'aime bien.
Je suis
un
sourire. Je suis sûr que tout le monde me suive. Voilà. En kayak avec deux amis. Il faisait dégueu, mais on était chaud. À cause des bières ou juste de notre manque d'adresse. Les deux peut-être, notre kayak s'est retourné dans un mètre d'eau, mais avec mes chaussures dedans qui s'en sont allées avec le courant. Je suis donc rentré en chaussettes, deux trains, un bus et 15 minutes à pied, sous la pluie en passant par une gare bondée du centre de Bruxelles. Emoji, lunettes de soleil.
Waouh.
Voilà l'anecdote de Ore of the Woods qui m'a bouleversé, donc je voulais la partager avec vous. Il y a quelqu'un qui m'a fait aussi un commentaire très court, je vais couper le bruit de mes notifs car je suis incompétent. Lucilus nous envoie album concept. Donc déjà il y a un titre à ton commentaire. Merci pour le référencement, c'est vraiment parfait.
Comment la personne a fait? C'est un DM Instagram?
C'est littéralement juste deux mots, elle a sauté une ligne et après il y a le texte.
Ah.
Vraiment.
Ah, c'est genre une salutation.
On peut mettre des objets sur Instagram, j'étais là, trop bien.
Non.
Non. Coucou, j'écoute un vieil LMK où tu mentionnais que tu aimais les albums concept, en effet j'ai dit ça, et j'ai eu envie de t'écrire pour te conseiller Bleu Gospel de Turi. Je sais pas si le groupe
ça
s'appelle
comme
Turi.
Comme
une tuerie.
C'est horrible.
Oui. Trigger warning, violence conjugale intense.
Mais bon. C'est abominable.
Voilà, je n'ai pas écouté, hein, donc je glisse ça là, pour vous en faites ce que vous voulez.
Vraiment.
Je te jure, cet album m'a retourné les tripes et les écoutilles. Plein de bisous.
Yeah, yeah, yeah. Daddy t'éconne à la maison, mais maman lui redonne une chance. J'ai 8 ans, maman peine à me faire comprendre qu'il n'est pas méchant. Elle crie qu'elle sait qui la débute, mais débute c'est quoi maman? Daddy me réveille, il est torse nu, sa bouche en l'essence. Fais ton taf, fais tes devoirs, il est 3h du matin mec. Je dormais déjà, j'ai école demain, fais ton taf.
Et est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, quelqu'un qui m'a dit, pardon, 7h20 aux prises d'otage avec le jingle du jour que je n'ai pas écouté grâce au bouton d'avance rapide. Bonne journée. Si chaque semaine il faut que je me révolte, je le ferai. Et Jeanne...
les gens ils zappent les jingles,
exactement,
j'adore. On dirait moi quand je voulais pas dire la phrase de fin.
Et j'ai répondu...
Continue à être petit et à voilà, stand your ground sur des trucs qui n'ont aucun intérêt.
Absolument.
Comme ne pas écouter les jingles éclatés si vous avez
voilà.
pas envie. J'adore.
C'est à quoi j'ai répondu à Jeanne, lu et désapprouvé.
Vu et sans tape.
On est là-dessus. Et je voulais juste finir là-dessus en faisant un petit big up à la LM Crado qui est venue tout à l'heure, Manon, qui nous a fait un coucou et qui nous a apporté des cookies.
Merci Manon, Manon, j'ai éclaté les chouquettes, c'était trop bien.
Merci
voilà,
Manon.
On a pété la gueule aux chouquettes et voilà, c'était très chouette de te faire visiter. Elle a vu les studios Mademoiselle et elle
oh
a goûté
God.
Les sirops d'Anthony.
Oh là là.
Enfin, un des
oui, ce n'est pas une légende, ce n'est toujours pas sponsorisé, je suis toujours pauvre. Mais sur mon bureau en ce moment, j'ai du sirop de pistache et de menthe, les deux vont très bien ensemble.
J'aime
la pistache toute seule, c'est absolument délicieux.
Oh là là.
Je te fais goûter tout à l'heure si tu veux.
Ok, ok.
Et plutôt deux fois qu'une même. Et voilà, vraiment, hydratez-vous, c'est délicieux. Avec ou sans alcool, la fête est plus folle.
Absolument. Et écoutez Benabar, c'est bon pour mes commentaires.
Yeah. Aïda, as-tu un commentaire?
Bien sûr que j'ai
idéalement
un commentaire.
Idéalement un et moins long. J'ai... Sinon, quatre.
Une ambiance
J'ai 18 commentaires, tous très longs, que je vais lire lentement. Non, j'ai un commentaire de Mathilde le slip vert, que j'adore.
Oui.
Qui m'a envoyé... Bonjour Aïda, je suis une fidèle auditrice de Laisse-moi kiffer et je te remercie. Parce que ta réponse à la question « Le monde veut savoir sur l'ennui » m'a rassurée. Je ne suis donc pas la seule à parfois rester sans rien faire. Souvent, je suis allongée dans mon lit et je regarde le plafond. Avec une phrase d'une chanson qui tourne en boucle dans ma tête. C'est jamais les vraies paroles de la chanson, c'est plutôt une phrase à la con genre « J'ai mangé des betteraves » sur l'air d'une chanson à la con genre « Sur le pont d'Avignon » qui tourne en boucle, ce qui ferait « J'ai mangé des betteraves, j'ai mangé des et betteraves ». En boucle.
Est-ce qu'elle t'a envoyé un vocal?
Est-ce que tu t'es entraînée avant de le faire? Genre vraiment, est-ce
ah
que
non,
tu l'as
lu? Non, mais tu crois que j'avais gagné le karaoké?
Bah, non, mais le « j'ai mangé » et des le « et » en l'air, je l'ai trouvé fascinant.
Écoute, j'ai fait 12 ans d'orgue électronique, personne
ne
fait ça.
Quoi?
Cette anecdote est vraie.
C'est vrai.
Ce sera l'objet d'une autre digression, car cette introduction est longue.
Mathilde, oui. Le slip vert finit par « merci et vive la gauche ». Mathilde, je
oui.
t'adore. Merci pour ce commentaire.
Et envoie-nous des vocaux de toi qui chantes.
N'hésite pas
ah oui,
à nous chanter ce qui se passe dans ta,
qu'il y a dans ta tête.
Oui.
Anthony.
Oui, alors je ne vais lire qu'un seul commentaire car je suis un bon élève qui fait tout ce qu'on lui demande.
Merci Anthony.
Il y a Hour of the Woods sur Instagram qui m'a envoyé un commentaire génial. J'adore.
La fame, ça fait elle deux fois dit... qu'elle est citée quand même.
En un épisode.
Oui.
Waouh.
Trop d'accord avec toi sur les mangas, je suis prof en secondaire depuis 11 ans et avant j'avais peu d'élèves qui visaient et là ils sont tous à fond sur des mangas. C'est trop cool. Du coup, j'essaye de mettre plein de références dans mes cours vu qu'ils détestent le néerlandais et que j'essaie désespérément de leur apprendre. Et donc elle m'a envoyé des extraits de ses cours où elle essaye de leur apprendre des phrases en néerlandais avec One Piece, Naruto, Death
trop
Note,
bien.
Etc. Et elle me dit « Voilà, comme ça tu sais dire mon animé préféré est en néerlandais ».
Tu peux
et
le dire.
Du coup, elle me dit, non mais je ne saurais pas te le lire, je vais essayer, mais je suis désolée pour les personnes néerlandophones,
néerlandophones, néerlandaises.
Mais est-ce que quand t'es néerlandais, tu parles
forcément... Les locuteurs et locutrices de la langue
De la langue néerlandaise, oui, merci.
Le locutorat.
Et du coup, elle me dit, désolée, nous les profs, on a un besoin compulsif de montrer nos cours à tout le monde, alors qu'en fait, tout le monde est trop content de ne plus être à l'école. C'est faux.
C'est
la
bon,
PAC
ça m'intéresse
manque
de
énormément.
Voir comment les gens ils font leurs cours.
Ben voilà, elle t'enverra des DM, I guess. Et du coup, voilà, fin de mon commentaire.
Attends, mais tu vas pas nous lire le truc en néerlandais.
Oh,
il a cru, on a oublié. Et là, du coup, ainsi voilà, c'est la fin de ma participation.
Attendez, j'essaye. What is your favorite anime?
Je pense que t'es pile vraiment bien.
Mich, favorite anime is... ou alors ik uniet van animé, ou alors ik herb ergin.
Putain, je vois les tulipes, les canaux, c'est beau ce qui se passe.
Je viens de me faire renverser par une bicyclette là, c'est beau.
Dring, dring.
Merci voilà. Anthony.
C'était très humiliant, merci pour ce moment.
Merci pour ce courage et ce sacrifice. Moi j'ai un long commentaire de The Agil que je vais paraphraser car il est long et aussi c'est plein de trucs gentils sur moi, il y a toujours un truc un peu humble brag que j'essaye d'éviter. Mais c'était très chou, du coup je vous le lis quand même. Il me dit « Hi Mimi, j'espère que tu vas bien et que tu kiffes la life, ça fait un long moment que je veux t'écrire mais il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Et l'écoute du dernier LMK m'a fait réaliser à quel point tu me manques plus que ce que j'avais imaginé quand j'ai appris que tu quitterais Mad. J'ai découvert LMK juste après avoir découvert les podcasts grâce à toi, tu étais passé dans le meilleur podcast qui est un ancien podcast de Cyrus North et Tom Aguilar qui consistait à chaque épisode à déterminer le meilleur machin. Et moi j'avais été invitée dans un épisode sur Game of Thrones, la meilleure maison de Game of Thrones.
Trop bien.
Je crois que j'avais gagné avec les Lannister car les Lannister sont toujours les meilleurs. Donc effectivement j'avais totalement oublié mais j'étais passée dans le meilleur podcast. Et Gilles me dit voilà, tu étais passée dedans, j'ai voulu en savoir plus et depuis je n'ai pas été déçue, je kiffe toute la team. J'ai l'impression d'avoir une connexion particulière avec toi parce qu'il me dit que mes kiffs sont ses préférés et matchent avec ses centres d'intérêt et que 9 fois sur 10 quand je raconte ma vie, c'est-à-dire que ça arrive régulièrement dans LMK, bon. Il se dit ah tiens moi aussi. Et ce qui est marrant c'est qu'on vit sur des continents tout à fait différents puisqu'il vit en Afrique et il me dit on a le même âge et mis à part qu'on vit sur des continents différents, nous avons eu quasiment la même vie, c'est limite effrayant, j'en rigole à chaque épisode avec ma femme. La seule différence c'est que tu n'es pas très portée sur la musique mais quand tu t'y es mise il a fallu que tu tournes en boucle sur All Too Well grâce à Anthony Vincent ici présent qui m'a fait découvrir l'histoire avec Jake Gyllenhaal caché derrière All Too Well de Taylor Swift version de 10 minutes, du coup je l'ai écouté en boucle pendant 3 mois car je n'ai pas de demi-mesure. Et il me dit j'ai bloqué dessus exactement à la même période, comme quoi on est connectés. Et là tu découvres le chômage, car oui mon dernier kiff c'était le chômage. Moi aussi j'ai traversé une période de chômage récemment, j'ai déménagé de Ouagadougou au Burkina Faso pour Abidjan en Côte d'Ivoire en décembre et j'ai passé 5 mois sur le carreau professionnellement. Ça a été une des meilleures périodes de ma vie, j'espère qu'elle te sera aussi profitable et te permettra de recharger au mieux tes batteries. Porte-toi bien et toutes les meilleures vibes depuis Abidjan. Merci beaucoup Gilles, c'est très chou et j'aime toujours savoir que LMK est écouté au-delà des frontières et tout autour du monde, ce qui est toujours surprenant. Merci beaucoup pour ces commentaires. Pour rappel, vous pouvez les envoyer sur nos comptes Instagram qui sont dans la description de chaque épisode ou sur le compte de Laisse-moi kiffer directement. C'est l'heure de l'anecbof de Star et ensuite on pourra peut-être commencer ce podcast.
Ah non, il y aura un message boubou aussi. Oui. Il est court.
Allez, petite anecbof de Star qui est signée, je ne sais pas qui car Mathis, tu ne me l'as pas dit, mais la personne se reconnaîtra.
Je t'ai fait un screen, non ?
Non, tu me l'as copié-collé.
Ah, je suis incompétent.
Coucou à toute l'équipe de LMK, j'ai une anecdote de Star à vous partager. Contexte, merci pour le contexte. Été 2019, je travaillais comme médiatrice culturelle dans un musée d'art contemporain réputé. La majeure partie de mon travail consistait malheureusement à poireauter sur une chaise en regardant les gens passer et à engueuler ceux qui tentent de toucher les œuvres. Qui fait encore ça ? Pour passer le temps, j'avais l'habitude d'écrire dans mes carnets tout ce qui me passait par la tête, y compris mes listes de courses. Bref, j'étais assise comme d'hab, le nez plongé dans mon carnet, et je vois rentrer un type accompagné d'une jeune femme. Dans ma tête, je me dis « Oh la vache, il ressemble beaucoup à Gérard Jugnot !» Et voilà que je me mets à chanter à moi-même la chanson des choristes, que je ne vais pas vous chanter car je chante très mal.
Oh, vas-y sur ton chemin, gare à oublier tes garés.
Incroyable, merci pour ce bel ensemble. Vraiment, j'ai dit je vais pas le faire et vous avez dit on y va pour toi Mimi.
J'ai été soliste dans ma vie et je chantais Morin, je chantais avec ma petite voix juste avant la mue.
Oh, wow.
J'étais dans des chaussures qui étaient deux pointures en dessous des miennes, c'était un concert compliqué.
J'oublie parfois quel point t'es blanc. J'espère que j'ai le droit de dire
ça. C'est drôle. J'accepte.
La mélodie me trotte dans la tête pendant 20 minutes et je l'observe en coin et je me dis qu'en fait, si ça se trouve, c'est lui et qu'en fait, ça serait trop bien et j'aimerais bien avoir une photo avec le pion des choristes. Mais vu que personne ne s'attroupe vers lui pour demander un autographe, c'est sûrement juste un type qui lui ressemble. Au bout d'une heure, il vient me parler, il me demande d'un air perdu si cette expo c'est de l'art concret et je le regarde d'un air tout aussi con parce que personne ne parle d'art concret dans ce milieu, sauf les gens qui n'y connaissent rien en art contemporain. Du coup, je lui explique brièvement les intentions de l'artiste, et en vrai, c'était pas une expo très simple à comprendre. Du coup, pas facile de faire adhérer au concept. Je pense qu'il a dû croire que je le prenais pour un con, mais j'étais à moitié intimidée, parce que moitié pas sûre que c'était Gérard Jugnot. Il me répond « Ah !» et puis il s'en va. Et j'ai su 2 heures plus tard que c'était vraiment Gérard Jugnot, et je me suis sentie vraiment conne. Voilà, bisous et grosse dédicace. Comme quoi, il faut demander aux gens « Êtes-vous Gérard Jugnot ?» C'est peut-être la leçon.
En général.
Je sais pas, si je faisais ça avec tous les gens dont je pense que c'est Gérard Jugnot, je passerais des mauvais trajets en métro.
Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une Alors phrase déjà... dans les manuels scolaires chelous, tu sais, où ils t'apprennent une phrase random, genre êtes-vous Gérard Jugnot, où t'apprends le français oui. Et tu dis ça à tout le monde, je sais pas pourquoi.
Ou savoir dire en néerlandais quel est ton animé préféré,
par exemple.
Ce qui est pas le premier truc dont t'as besoin dans un pays étranger, mais ça finit par servir.
Ah là là, si j'avais pris des cours de néerlandais, j'aurais su le dire.
Cela dit, indice, si la personne est dans le métro, c'est probablement pas Gérard Junior. Je ne pense pas que Gérard Junior est dans le métro. Ou alors, il y a eu un glowdown en termes de carrière qu'on n'a pas vu venir, quoi. Ok, c'est l'heure du message
boubou,
du message
réré,
du message
bourré.
À toi la main, Mathis.
J'adore comment on fait des vocalises, Aïda.
J'adore, je vous ai même pas suivi sur le champ, j'étais tellement concentré sur le fait que j'allais devoir cliquer.
C'est maintenant que je peux cliquer.
Ah la vache, une vie de tecos, hop.
Bonsoir les stars, ici c'est le message boubou, c'est le... bref, ré, bourré.
Ah bon,
Alors, je suis allée en boîte, c'était super, mais conseil à tous les pauvres parisiens, ne rentrez pas à 5h du mat, car il est trop tard pour les noctiliens et trop tôt pour les métros. Donc, je marche et je prends des itinéraires approximatifs. Je crois que je vais mettre plus de 1h30 pour rentrer. Est-ce que j'ai envie de mourir? Probablement. Est-ce que je suis fatiguée? Probablement. Est-ce que j'ai froid parce que mes vêtements sont trempés tellement j'ai dansé et j'ai transpiré? Probablement aussi. Mais bon, j'ai LMK dans les oreilles. C'est super. J'adore. Merci les stars. Ah, oh, ça va couper. Merde, merde, merde. Ouais, j'écoute depuis... Wow. Longtemps. Je crois toujours. Mais j'aime beaucoup, j'avoue, je suis un peu en dépression interne quand des gens que j'aime bien partent. Mais après, j'aime bien tout le monde. Et en fait, j'ai un peu l'impression, Anthony, c'est un peu mon père spirituel. Donc si tu veux bien m'adopter, je veux bien. Oh non, la boulangerie, elle est fermée. Voilà. Bisous, bisous. J'ai froid. Je veux rentrer chez moi, me laver et faire dodo. Un update pas hyper utile. La boulangerie a été ouverte. Et ça, ça fait plaisir à mon petit cœur. Et les gens, je sais pas pourquoi, ils sont tendus un peu et pressés. Alors qu'on est dimanche matin. Et moi, ils m'ont dit bonne journée. J'ai dit bonne nuit. Et moi, je pense qu'il faut être gentil avec les gens parce que ça fait plaisir aux gens. Alors, c'est mon conseil de vie d'une vieille sage de 23 ans. Pas très vieux et pas très sage. Et sinon, je voulais dire le kiff de ma vie depuis pas longtemps, c'est une pétasse. C'est génial. Et ma devise, c'est moins je porte de tissu sur moi, plus je suis heureuse. Appliquer ce conseil, c'est super, mais on attrape potentiellement froid et on est souvent enrhumé, mais on est bonne et ça c'est cool.
Entièrement d'accord.
Merci Colline.
Est-ce que tu adoptes Colline spirituellement ?
Colline, je veux bien t'adopter, mais
oh
à une condition, si tu veux bien m'adopter, parce que je veux bien que tu sois ma mère spirituelle.
Incroyable.
C'est une famille compliquée.
C'est trop bizarre.
On vous laisse régler ça en DM et vous nous ferez un petit arbre généalogique ensuite pour qu'on arrive à suivre.
C'est un rond point.
Il y a une expérience. Il y a une expérience scientifique en psychologie sociale qui a prouvé, ou en tout cas étudié, le fait que a hoe never gets cold. Et on mettra le lien de l'article que j'ai écrit sur Mademoiselle à ce sujet-là. Car c'était une devise de Cardi B. Et des psychologues ont essayé de vérifier si c'était vrai en étudiant le ressenti de femmes à la sortie de boîte de nuit en fonction de à quel point elles étaient dénudées ou pas. Et ils se sont rendus compte que les plus dénudées mais qui se sentaient sexy avaient moins froid que celles qui se sentaient pas sexy.
Se sentir sexy tient chaud. Ce qui explique le look des Anglaises à 2h du matin. Exactement. Quand il fait vraiment 4 degrés dans leur pays. Je ne sais pas comment elles font, mais respect.
J'adore ces photos.
Donc, soyez des pétasses si vous voulez être des pétasses. Je suis une pétasse.
Tout à fait. Et on est ravis car ce commentaire finit bien. La boulangerie était ouverte. Merci beaucoup, Colline. C'est l'heure de passer au kiff car c'est finalement le sel de ce podcast, paraît-il. C'est donc l'heure du moment que tout le monde préfère, notamment la personne qui va faire avance rapide là tout de suite. Jingle.
Ça va être mou, non ? Balance ton kiff. Balance ton kiff. Je le fais très mal. C'était pas du tout salaire. C'était pas ça.
Waouh, wow, merci Marie-Normand.
Merci Valentin.
Ah, c'est son vrai nom maintenant.
mais aussi Valentin. Bah, je me dis, tu vois, de temps en temps, il faut rendre à César ce qui est à César. Allez,
peut-être je vais remettre Cédric bientôt. Peut-être si vous criez très très fort dans les commentaires, mais surtout commentez sous les publications, comme ça, à tout hasard. Peut-être que je ferai revenir Cédric. Ça dépend de combien de personnes vous invitez à aimer la page.
Les comptes où tu demandes, tu fais un vœu, et en fait, ton vœu, il est toujours maudit, genre, il est toujours interprété d'une façon maudite. Il y a des gens qui ont souhaité ne plus avoir le jingle de Cédric, et à la place, ils ont eu le jingle de Marine Normand. Can go deeper.
Faites attention à ce que vous souhaitez.
Ça peut toujours être pire. Je peux vous faire des jingles en slam. Vraiment, vous allez connaître votre peine.
Ok, prochaine ère de LMK, prochaine esthétique, les jingles en slam de Matisse. Matisse, quel est ton kiff? J'espère que ce n'est pas Grand Corps Malade du coup.
Non. Même si mon grand corps n'est pas en forme car la fatigue. Oui, j'ai passé dans les derniers jours énormément de temps au théâtre. Hier soir, j'ai vu 4 heures de pièces en allemand. C'était vachement bien. La veille, j'ai vu 3 heures de pièces bel et bien en français cette fois. Et ce week-end, j'ai vu 18 heures de théâtre. Enfin, à peu près 18 heures.
Ce n'est pas une quantité normale de théâtre.
Ce n'est pas une quantité normale de théâtre, mais c'est mon kiff. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la pièce que j'ai vue le soir de la fête de la musique. Donc c'était quoi? C'était mardi soir, mercredi soir?
Mardi soir.
Parce qu'elle était très chouette, même si elle est finie à Paris, mais elle va tourner
vraiment
en province. Elle va tourner dans plein d'endroits. Je vais aller très très vite. C'est juste une pièce de Marc Lenné qui est très très belle, qui s'appelle Nostalgia Express. Et je vous en parle dans mes stories. Je vais mettre les stories à la une parce que j'ai trouvé vraiment la pièce bouleversante. Mais celle dont je veux surtout vous parler, c'est une pièce de Thomas Joly, qui est un metteur en scène normand. Ce qui est somme toute quelque chose qui m'arrange, car je suis moi-même normand. Voilà, c'est un metteur en scène dont je suis le travail depuis très longtemps, qui s'est attaqué à plein de gros classiques et qui à chaque fois porte ça avec des mises en scène très jeunes, très électriques. Il y avait un critique qui avait dit qu'il utilisait le son et lumière des spectacles du Futuroscope, ce que j'avais trouvé très très drôle. Et en même temps, franchement, c'est chouette de voir un truc un peu plus punk au théâtre, qui est quand même un art dans lequel les gens restent souvent assis poliment, et c'est pénible. Sauf que là, j'ai vu un truc de doudingue à Angers.
Je vous apporte de France une bien triste nouvelle de perte, de massacre et de défaite. La Guyenne, la Champagne, Reims, Rouen, Orléans, Paris, Gisors, Poitiers, tout est perdu. Malheureux devant le corps sans vie d'Henri. La perte de ces grandes villes va lui faire briser le plomb de son cercueil et se relever d'entre les morts.
C'est donc une pièce qui s'appelle Henri VI et Richard III, qui sont en fait deux pièces de Shakespeare, qui sont l'histoire des familles royales anglaises, ou globalement c'est Game of Thrones, mais écrit par Shakespeare, et c'est incroyable. En gros, Thomas Joly a pris la tête du CDN d'Angers, donc le CDN, le Centre Dramatique National, et en fait, en ayant ce pouvoir-là, il a pu mettre en place cette espèce de prouesse technique qu'est mettre en scène une pièce aussi longue. Et il a repris donc cette pièce qu'il avait déjà fait il y a 10 ans, Henri VI et Richard III. Et en fait, tout ça se suit chronologiquement et ça vous permet vraiment de descendre au fur et à mesure de la pièce à un arbre généalogique et de voir en fait globalement qui va buter qui pour que le petit tout en bas à droite, il arrive à devenir roi, tu vois. Et c'est vrai, ça va pas du tout, Grosso débloque complètement. Alors j'ai réussi à trop parler et à pas dire l'essentiel, mais parce que c'est moi qui monte ce podcast et que je fais ce que je veux, faites-moi un procès, je vous fais un petit aparté pour vous glisser quelques infos, un petit point contexte finalement comme vous les aimez. Je vous parle donc dans Laisse-moi kiffer de Henri VI, une pièce que Shakespeare aurait tout aussi bien pu appeler Miskina, tellement le roi s'en prend plein la gueule, et je vous parle aussi de Richard III, c'est une pièce plus courte mais tout aussi violente qui est la suite directe de la première. Sur la question de la compréhensibilité et donc de l'accessibilité de la pièce, je suis obligé de vous parler du personnage de la Rhapsode. C'est une narratrice-personnage qui est inventée de toutes pièces par Manon Torel, une comédienne de la pièce dans la version de 2015, qui est aujourd'hui interprétée par Clémence Boissé. Et c'est elle, la Rhapsode, qui vous prend par la main, qui vous fait des résumés, et je trouve le concept trop cool. Et d'ailleurs, je suis pas le seul, puisque à chaque fois qu'elle arrivait sur scène, les gens hurlaient et scandaient des trucs, il y avait des holas dans le public. Bref, c'était assez dingue. Fin de ce premier point contexte. Car oui, ce ne sera pas le seul.
L'incompétence.
Comment ça s'est organisé? En fait, il y avait deux fonctionnements différents. Il y avait une représentation de 24 heures où c'était vraiment la grosse expérience. Les gens, ils arrivent avec des oreillers et tout. C'est un truc de fou. Et il y a celle que j'ai vue parce que j'avais plus de place pour les 24 heures qui était en deux fois 12 heures. Enfin, je dis 12 heures, mais c'est ish. globalement. Donc c'est un peu moins,
au
je crois.
Au bout de 12h, on n'est plus à 1 heure ou 2 près.
Oui, on est ish.
Et donc, bah, globalement, t'es arrivé le samedi, ça commençait à 11h, t'es arrivé le dimanche, ça commençait à 11h, et voilà, ça dure sur toute la journée. Vous avez différents entractes, vous avez des repas, et en fait, vous passez vraiment votre temps au théâtre. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un metteur en scène qui insuffle une ambiance très, très bienveillante, je trouve, dans les salles. Moi, je trouve que c'est important dans le sens où c'est un théâtre qui est très permissif. C'est quelqu'un qui sait que le théâtre, ça n'a pas toujours été juste des gens qui s'assoient dans le noir et qui applaudissent poliment à la fin. C'est des gens qui peuvent réagir, c'est des gens qui peuvent commenter, c'est des gens qui se lèvent. Et là, il y a des moments où il nous a fait chanter, il y a des moments où les gens ils hurlent, il y a des moments où les gens ils dorment parce que c'est long et c'est pas grave et c'est ok, c'est trop bien. Il y a des moments où les gens ils interagissent parce qu'ils font en sorte d'interagir avec le public et tout ça quand même avec des pièces de Shakespeare quoi. Et c'est incroyablement moderne, c'est incroyablement drôle, surtout le début est très drôle et puis au fur et à mesure il y a de plus en plus de sens sur la scène donc ça devient compliqué. Et c'est aussi quelqu'un qui m'a absolument impressionné par l'imagination et l'ingéniosité qu'il a. C'est un metteur en scène qui vient avant tout de l'acting, donc il y a un grand respect pour ses comédiens et ses comédiennes et qui est lui-même comédien dans la pièce puisqu'il joue Richard III. Et c'est quelqu'un en fait qui essaie de chercher toujours la trouvaille, le petit truc qui fera que ce sera marquant comme scène. Et surtout quand vous avez, je sais pas, 5 ou 6 batailles sur tout le récit qui sont écrites, comment on fait pour pas que ce soit chiant et qu'on refasse 2 fois la même chose? Et bah pas une seule fois il y a la même chose. Et ça c'est quand même stupéfiant de voir des scènes de bataille et de voir les gens applaudir les scènes de bataille, hurler. Enfin c'est vraiment incroyable. Enfin j'ai eu des frissons mais pour plein de raisons différentes. J'ai pleuré de rire, j'ai pleuré tout court, mais bon après je pleure tout le temps donc ça vous le savez, c'est pas non plus une référence de zinzin. Et puis ouais, accessoirement j'ai été vraiment bouleversé par plein de scènes, plein de textes, plein de comédiens aussi parce qu'ils s'entourent quand même d'une équipe de gens super talentueux. Il y a 20aine de comédiens sur scène, c'est hallucinant et beaucoup plus de personnages puisqu'il y en a plein qui font plusieurs rôles. Et globalement, comment vous décrire ça? C'est beaucoup de lumière, c'est beaucoup de jeux avec des espèces de grands pans de murs qui se déplacent. C'est un jeu aussi avec des espèces d'échafaudages, voilà, sur roues qui font tourner à droite à gauche. C'est incroyable. Et vous avez du coup des choses avec des contre-jours, vous avez des choses avec de la fumée, évidemment. Tout ce qui est possible d'imaginer au théâtre, c'est là en fait. Et c'est quelqu'un, moi à chaque fois que j'ai vu son travail, je trouvais que c'était super intéressant parce qu'en fait tu peux gratter chaque idée, tu peux creuser parce qu'il s'entoure aussi de gens, des accessoiristes, des costumiers, etc. Où en fait rien n'est laissé au hasard. Typiquement, il a son personnage Richard III qui est un peu censé être difforme, etc. Donc il a une espèce de bulle un peu sale quand on tire de son dos, on dirait qu'on lui enlève de la peau. Et en fait il y a un espèce de souci du détail comme ça. Eh, c'est encore moi, bonjour, pardon. Alors malheureusement, et désolé pour votre FOMO, la pièce est terminée. Mais gardez espoir, parce que déjà elle a été reprise plus de 7 ans après sa création initiale, et aussi il y a plein de dispositifs qui gravitent autour de la pièce, plein de créations dont je vais vous parler. Il y en a 4 principales que vous pouvez retenir. D'abord, il y a le documentaire Making Henry autour de la création de la pièce que vous pouvez voir en ligne. Vous avez toute la bande originale de Clément Mirguet que vous pouvez avoir sur toutes les plateformes d'écoute. Ensuite, vous avez Marguerite Express que vous pouvez voir à Angers jusqu'au 16 juillet dans une mise en scène de Charline Poron et Thomas Joly, et qui est centré sur le personnage de Marguerite d'Anjou qu'on peut voir dans Henri VI. Et enfin, le dernier truc que vous pourriez croiser et qui est vraiment super intéressant, je trouve, c'est l'initiative H6M2. H6M2, en fait, c'est Henri VI, mais dans une version de 45 minutes et sur un plateau de 6 mètres carrés avec 4 comédiens. Donc autant dire qu'on a fait un peu minimaliste, mais c'est une version gratuite qui circule dans des espaces publics et je trouve l'initiative trop, trop bien. Fin de ce deuxième point contexte. Merci. Les billets n'étaient pas très chers. C'est quelqu'un qui vient vraiment du
J'avais
théâtre
demandé,
public.
J'avais demandé ça coûte combien d'aller voir 2 fois 12 heures de théâtre
Ça a coûté 24 euros.
Sérieux?
24 euros, c'est 1 euro par heure. Enfin, c'est rien. Alors, wow. Un tarif jeune, mais je crois que c'était pas beaucoup plus haut pour les autres. Et vraiment, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, le théâtre du Quai aussi, accessoirement, c'est une espèce de scène qui est immense, une espèce de gros cube de béton. Et en fait, tout le devant, c'est une verrière. Et en fait, elle s'ouvre, cette verrière. Et l'ouvre en grand comme ça. Et en fait, c'est un
donc
espace
t'es pas
où
enfermé
les gens,
pendant 24 heures non plus. Ça
bah,
peut être.
Ouais, c'est ça. Disons aéré, pendant quoi. Les entractes, t'as un bar, t'as une librairie.
Allez,
c'est un espace qui est vivant, en fait. Il y a des transats à droite à gauche, il y a des poufs où les gens ils se posent, ils s'endorment. Et voilà, je trouve que c'est une conception du théâtre qui est extrêmement rafraîchissante. Et qui n'empêche pas en fait, de mettre en valeur des textes qui sont classiques, qui sont importants dans le répertoire. Et moi, j'ai été vraiment bouleversé de découvrir et redécouvrir Shakespeare comme ça, parce que moi, j'avais déjà vu Richard III, pour le coup, et j'avais rien compris. Et c'est quelqu'un qui, en plus, mobilise cette ingéniosité pour que les gens comprennent. C'est pas juste de la poudre aux yeux, c'est vraiment comment on va essayer de réexpliquer.
Quoi.
Ouais, ça, comment on va réexpliquer quatre fois un arbre généalogique, mais pareil, en ne faisant pas de la même façon à chaque fois. Typiquement, je dis ça sans spoiler, il y a un moment où il a mis tous ses comédiens sur une espèce d'estrade, et c'est la photo de classe. Et en fait, on comprend que c'est un arbre généalogique, et en fait, ils font descendre des rubans des mains des personnages, et comme ça, on comprend le mariage qui va sceller telle personne, et en fait, on descend. Et on essaie d'expliquer en fait pourquoi tel roi n'est pas légitime parce qu'en fait il a tué tel machin et en fait la vraie lignée si on suivait machin de machin. Et c'est hallucinant comment c'est bien pensé, comment c'est bien foutu et comment en fait tout le monde se fait plaisir sur scène. Les comédiens s'amusent vraiment, le public s'amuse vraiment et j'ai vraiment eu plein de moments où j'avais des larmes aux yeux, pas tant pour ce qu'ils jouaient parfois sur scène mais juste vivre ça en fait, vivre ça ensemble, de voir autant de gens heureux dans une même salle, j'ai trouvé ça incroyable et je trouve que c'est rare au théâtre malheureusement.
Bah ça donne hyper envie quand t'en parles et c'est vrai que pas l'aspect le plus vivant et interactif qu'on associe au théâtre base quoi, surtout pour des trucs aussi classiques que Shakespeare comme tu dis.
Coucou. Bon, c'est la dernière fois cette fois, mais dernier point contexte. Si vous me détestez de vous avoir donné l'eau à la bouche pour rien, vous pouvez retrouver le travail de Thomas Joly dans plein d'autres pièces, comme Starmania, qui va tourner dans plein de grandes villes à la rentrée, ou alors Harlequin, Polybar l'amour, qui va tourner à Lyon, Le dragon d'Evgeny Schwartz, qui va être repris à Paris en mars 2023, ou encore Roméo et Juliette, qui va être adapté à l'Opéra Bastille pour la saison prochaine. Donc vous avez plein de choses à suivre, vous pouvez suivre tout ça sur les réseaux sociaux, et je vous en parlerai certainement dans LMK. Et c'est la fin de ce point contexte.
Merci Mathis.
Mais je vous en prie.
Vraiment, heureusement que t'es là pour parler de théâtre.
Dramatis.
Parce que je suis là, waouh, j'y connais tellement rien.
Mais non, mais y a pas besoin de s'y connaître, c'est ça qui est chouette aussi.
Oui, non, mais j'y vais jamais non plus, tu vois.
Donc, oui, bien sûr.
C'est un cercle vicieux de j'y connais rien, donc j'y vais pas. Mais tu vois, de base, tu me dis 24 heures de théâtre, je suis là, calmez-vous. N'hésitez pas à vous détendre, mais tu le vends bien.
Ça a l'air d'être une belle expérience sociale. Devant une heure et demie de théâtre parfois dans ma vie que là, j'hallucine de pas m'être fait chier une seule seconde, quoi. Voilà.
Merci Mathis.
Mais je vous en prie.
Aïda, c'est quoi ton kiff?
Donc mon kiff est une BD d'une autrice qui s'appelle Lily Sohn, j'ai envie de le dire à l'allemande parce que ça s'écrit S-O-H-N, Lily Sohn. Et qu'est-ce qu'il y a?
Je te raconterai après. Bon, on est parti pour digresser une demi-heure.
Oui, non. Au point, straight to the point. Donc Lily Sohn, elle a écrit une bande dessinée qui s'appelle Partir sur les chemins de Compostelle, qui a été éditée chez Casterman il y a peu de temps, j'ai pas la date exacte, mais ce sera probablement dans les notes du podcast, si Mathis veut bien.
Non.
Eh bien, ça ne le sera pas, et vous irez vous plaindre dans CDM.
Oui.
Donc, c'est une bande dessinée qui raconte... Enfin, c'est une BD un peu autobiographique, en fait. C'est l'histoire de cette autrice-là, donc Lily Sohn, qui part... toute seule sur les chemins de Compostelle pendant 45 jours. Elle part parce que ses éditeurs, un jour, après avoir signé son dernier bouquin, lui disent « Ah, ce serait trop marrant que tu te barres à Compostelle 45 jours sans ton portable. » Elle, au début, elle est un peu vexée de...
Dites-le si vous voulez juste pas traîner avec moi, quoi. Je peux pas me barrer de moi, on peut juste pas s'appeler, hein.
Et elle est un peu vexée, puis elle est un peu vexée de pas avoir eu l'idée aussi. Elle se dit, ah, c'est vrai, parce que sa famille, en fait, elle a des liens avec le sentier de Compostelle. Elle a ses parents qui vivent sur ce trajet du pèlerinage et qui tiennent un gîte.
Ah oui.
Donc elle a un lien affectif avec le lieu. Elle y est allée souvent, en tout cas, elle a vu des parties du sentier, elle y a passé du temps, etc. Et surtout, elle raconte en fait au début qu'elle a un truc de, comme plein de gens, je pense, d'espèce d'addiction à son téléphone. Aux réseaux sociaux, etc. Et elle, en fait, elle explique aussi que ces réseaux sociaux, c'est la vitrine de son taf. Quand t'es autrice et encore plus autrice de BD, bah, tu publies des strips, tu te fais connaître, tu fais en sorte de faire grandir un peu ta commu pour vendre des livres, car les droits d'auteur, c'est entre 6 et 8%, donc ce n'est pas grand-chose pour manger.
Oui.
Et elle explique que, ouais, elle avait ce truc que je pense qu'on est plein à avoir de toute façon, de « t'as une seconde de libre, bah, tu scrolles sur ton téléphone ». Et donc, quand on lui propose ça, elle est en mode « Ok, bah ouais, en fait, c'est une bonne idée. En fait, ça pourrait être l'occasion d'écrire un truc cool. » Du coup, elle accepte. Elle laisse derrière elle... Enfin, on dirait qu'elle part pour toujours, mais elle part vraiment en vacances un mois, quoi. Elle laisse derrière elle son mec et son fils. Donc, il y a aussi tout un enjeu de maternité.
En vrai, passer un mois et demi sans voir et parler avec ton enfant et tout, c'est...
Il a quel âge, l'enfant ?
C'est un enfant... C'est pas un tout, tout petit, mais c'est un enfant-enfant. Genre, je pense... Je sais plus exactement, mais...
On est en CP ?
C'est pas un baby.
Entre 4 et 37
ans. C'est
pas
un adolescent.
Entre 4 et 12,
je dirais entre... non, entre 4 et 9.
Bon, c'est un âge
entre
où 5
content.
Et 9.
Peut-être il sait lire, peut-être pas.
Voilà, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, elle laisse son enfant derrière elle avec son mari. Donc elle s'interroge vachement sur son rapport à la maternité, sur est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère si je laisse mon enfant. Puis les gens lui disent « Ah, ton mec, il est d'accord. Ah, mais qu'est-ce qu'il va s'occuper de ton fils, machin ?»
Bah, son père, du coup. Bah, astuce.
Tout, tout, tout. Gros cerveau. Et elle décide de
la
partir.
La barre est au sous-sol, quoi.
Enfin, bah bref, ouais.
Je suis hallucinée à chaque fois.
Mais en fait, c'est ouf de devoir encore l'écrire et de devoir encore avoir cette conversation, mais ça continue à se produire en permanence.
Je vais partir un mois en laissant mon enfant avec son père. Je suis une mauvaise mère. C'est trop triste qu'elle en soit là, à cause du patriarcat, évidemment. C'est pas de sa faute à elle.
Après, je pense qu'il y a aussi, certes, le côté patriarcal, le contrôle social que les gens exercent sur elle en lui posant la question en permanence, mais il y a aussi juste un aspect de bah, quand t'es parent et que tu sais que tu vas pas voir ton enfant pendant 45 jours,
il peut-être
tu bades un peu, tu vois.
Oui, il peut te manquer, bien sûr.
Oui, il paraît qu'effectivement, il peut te manquer vite fait, ouais.
Je crois.
Bien sûr. Mais,
puis elle part sans smartphone, donc il n'y a pas de visio, il n'y a pas de petites photos ou de trucs comme ça pour être en contact avec lui. Bref, en tout cas, elle part seule. Et donc, c'est le récit de son grand, grand trajet à pied toute seule. Elle raconte avec quoi elle part aussi, parce que bah, y a tout l'aspect...
sportif
rando
même,
et sportif du pèlerinage, sachant que bah, tu pars avec ton sac à dos et ta vie sur le dos. Et voilà, donc elle part avec deux culottes, deux t-shirts. Elle fait sa petite lessive tous les soirs dans des gîtes, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et c'est hyper intéressant. En fait, ce qui est hyper cool dans ce récit-là, déjà, c'est que il y a un côté... on parle vachement de... Ok, quand on est une meuf, est-ce qu'on peut voyager toute seule ? Quand on peut, comment on le fait ? Dans quelles circonstances ? Est-ce qu'il y a un danger qu'on court ? Et bon, en fonction des endroits où on va, clairement, ces dangers, ils existent. Là, le fait qu'elle ait choisi un sentier aussi balisé que Compostelle, ça donne l'impression que c'est plus safe que si elle avait décidé de partir, je sais pas, faire
ouais,
du stop
faire son propre trajet, ou un truc comme ça,
dans un endroit très éloigné de la France.
Et tout,
Exactement. Et puis, il y a le côté aussi un peu, qui, à tort ou à raison, tu vois, mais il y a aussi un peu le côté pèlerinage religieux. Il y a des familles qui le font, il y a beaucoup de gens d'endroits d'arrêt. Et bref, donc elle se dit que ça va être potentiellement safe, ce que c'est, en tout cas, j'ai pas encore fini la BD, mais à l'endroit où je suis, tout va bien. Et pour autant, la présence masculine la présence des mecs autour d'elle sur le sentier a quand même un impact sur comment elle vit son voyage à elle toute seule. Donc évidemment, elle se fait mansplainer toutes les 5 minutes, mais il y a aussi une forme de... Bah, t'as des mecs qui essayent d'envahir son espace quand elle refuse, parce qu'elle le fait pour être toute seule, et du coup, ils insistent pour lui parler, enfin, il y a... Plein de choses comme ça qui l'interrogent, elle, sur sa place de meuf qui veut juste faire Compostelle toute seule pour écrire un bouquin à la base, quoi. C'est cool de l'avoir détaillé ça. Puis à l'inverse, t'as des moments où elle se retrouve par hasard dans un gîte où t'as que des meufs de plein de générations différentes. Et du coup, elle raconte aussi ces conversations-là, ces moments un peu impromptus où elle croise 6 meufs de plein d'âges différents et qu'elle se retrouve à partager des trucs de ouf ensemble et à en garder des trop bons souvenirs. T'as un récit du rapport à la solitude et à la nature qui est très intense et très beau aussi. Et après, il y a la manière dont elle vit, et ça aussi c'est un truc qui est intéressant, je trouve, dans ce bouquin, la manière dont elle met en perspective le fait qu'elle fait ce truc-là pour se raconter en le mettant en scène dans un bouquin, et où en même temps elle est en train d'essayer de faire une pause de justement cette espèce de vitrine d'elle permanente sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a un jeu en permanence dans la manière dont elle écrit de comment est-ce que je pense les choses au moment où elle m'arrive, et en même temps... Comment est-ce que j'essaye de m'extirper de cette espèce de réflexe permanent d'avoir l'impression de se voir de haut et de se raconter ? Parce qu'en fait, il y a plein de gens, et parfois c'est visible en plus, je trouve, qui ont cette espèce de capacité à se raconter à la troisième personne et à limite se voir de haut tout le temps. T'en as d'autres pour qui c'est un peu plus dur. Elle, je pense qu'en tant qu'autrice qui raconte sa vie, c'est d'autant plus prégnant. Et du coup, tu la vois un petit peu justement jongler avec ce truc-là, les moments où elle arrive à être un peu plus dans le moment, et les moments où elle est hyper méta et où tu sens qu'en fait elle est en train de faire un truc pour le raconter et après le raconter et prendre des photos du truc qu'elle va raconter. C'est cool, c'est frais, ça donne envie de partir en vacances, ça donne envie d'aller voir des arbres quand tu lis ça dans le RERC pour aller au travail le matin en heure de pointe. Et voilà, et de manière générale, moi je trouve toujours ça trop cool d'avoir des histoires de meufs qui voyagent seules. Moi ça me rappelle plein de bons souvenirs parce que c'est un truc que j'aimais beaucoup faire avant et que j'ai moins le temps de faire maintenant car le salariat ne me permet pas de prendre des vacances quand je veux. Mais enfin, pas quand je veux plus, aussi longtemps que je voudrais. Mais mm-hmm. en fait, aussi longtemps
un
que je voudrais.
Par exemple, c'est compliqué.
Mais en fait, aussi longtemps que je voudrais, c'est ne pas travailler. Du coup, ça marche pas avec le concept de salariat.
CF, mon dernier kiff dans LMK.
Tout à fait. Voilà. Et puis, il y a plein de trucs qui sont originaux et qui sont cool dans la manière dont elle a de se raconter, de se dessiner. Elle parle aussi de son rapport au corps. Enfin, voilà, c'est dense de ouf. Et c'est trop cool. Si vous cherchez une BD cool à lire là pour vous donner envie de partir en vacances, Partir de Lily Zone, c'est vraiment très bien. Chez Casterman.
C'est plus un format roman graphique que bande dessinée classique, non?
Ouais, c'est vrai.
Ça fait combien de pages?
C'est un gros machin. Hein.
Ça a l'air de faire 300 pages?
Ouais, c'est vrai. Je sais pas combien de pages ça fait, c'est assez gros. Après, il n'y a pas non plus de mille...
Effectivement, d'été, si vous voulez vous poser avec sur la plage, oui. En terrasse, vous prenez 2-3 heures de votre vie et vous vous évadez, c'est cool. C'est trop marrant parce que, sans vouloir faire la meuf qui avait eu l'idée, j'ai eu exactement cette idée, mais pour faire un podcast.
Ah ouais ?
J'en ai parlé à Fabrice Florent il y a quelques mois, donc il peut corroborer que c'est pas genre « Ah ouais, moi aussi j'avais pensé pareil ». Je m'étais dit... En fait, j'ai une tante qui fait le chemin de Compostelle, pas tous les ans, mais pas loin, qui est très très rando. Et alors moi, je suis athée, donc tout l'aspect religieux ne m'intéresse pas. Après, je trouve qu'il y a... culturellement des choses très intéressantes dans toutes les religions, c'est un truc historique et tout machin, donc ça peut être aussi intéressant pour moi de faire le sentier de Compostelle pour l'aspect histoire de France et de Navarre qui va avec.
Oui, d'ailleurs elle ne parle pas d'aspect religieux, tu voilà. vois, elle est pas dans un truc de pèlerinage, enfin,
mais
en
je
tout
sais
cas,
que ça
si
se fait
allait,
aussi pour des raisons qui peuvent être soit plus spirituelles que religieuses, dans le sens voilà un peu méditatif, un peu se recentrer sur soi, et puis aussi pour le côté challenge, pour le côté vivre ensemble, rencontrer des gens et tout. Et donc je m'étais dit peut-être ce serait une bonne idée de faire le sentier de Compostelle et d'en faire un podcast. Après j'étais là oui mais ça marche pas parce que si je fais le sentier de Compostelle pour faire une introspection mais que je le produis comme un podcast, je vais passer tout le temps à me mettre en scène dans le podcast et à me dire comment je raconterai ce moment là dans le podcast et à pas vraiment vivre les moments, tu vois, parce que je serais juste en mode comment je le retransmettrai au monde et comment je me mettrai en scène dans ce truc là au lieu de juste vivre le truc. Quoi ?
Tu fais l'aller-retour ? L'aller, tu médites, le retour, tu documentes ?
Bah non, parce que l'aller, je serais en train de me dire « Ah, au retour, comment je documente ?»
Bah ouais.
C'est très compliqué d'enlever ce switch dans ta tête une fois qu'il est là.
Ouais.
Et parce que beaucoup de ma carrière chez MAD s'est faite aussi en partageant ma vie privée, mon ressenti et tout, et ça me va très bien. Et puis elle est autrice, elle est artiste, donc forcément, t'as l'ego, tu mets de toi dans ce que tu fais. Donc je comprends ce truc complètement méta de « Attends, je fais le chemin de Compostelle pour faire une BD sur l'introspection que ça représente, mais du coup, je pense à la BD, donc c'est pas vraiment introspectif. Et j'essaye de me libérer du fait que je suis obnubilée par le monde qui tourne vite et par mon travail, mais du coup, pour ça, bah, je produis du travail. Enfin, c'est compliqué, n'est-ce pas, la vie ? Mais du coup, c'est trop marrant et ça me donne très envie de la lire parce que je me dis, ah bah cool, comme ça me donnera une idée de.
Je te la prêterai.
Yes, à quoi ça aurait ressemblé.
J'ai une pote qui a fait Compostelle aussi après une rupture amoureuse. Et elle me racontait à quel point ça avait été compliqué pour elle. Justement, le mansplaining des hommes qu'elle croisait parce qu'elle y allait seule.
Mais c'est du mansplaining rando, genre ? Ils sont là en mode.
Toute la vie, genre. Ils te croisent, ils tapent la discute H24 et ils te lâchent pas alors que tu manifestes que tu veux pas leur parler et tout. Mais bon, elle s'est aussi fait un super pote. Mais
il y en a des biens. Ouais. Not all men ouais. Sur le sentier de Compostelle.
Mais assez pour qu'on ait toutes peur. Et en gros, ce qui est assez, enfin ce qui m'a étonné, je suis vraiment un noob, hein, c'est à quel point en fait c'est une logistique de calculer le poids de ton sac à dos pour supporter la charge.
Absolument.
Faut que ça fasse moins de 10% de ton poids, il me semble de mémoire, mais à vérifier c'est hyper compliqué. Et les galères de pied, mais je vois dans Partir de Lily Sohn qu'elle en parle un petit peu aussi, c'est que genre une fois que t'es blessé, bah t'es grave dans la merde pour le reste de tout ton périple en fait.
La première ampoule.
Première ampoule,
t'es
dans la merde. T'es
là, non. C'est le début de la fin.
C'est ça, genre si tu marches dans une flaque d'eau, bah en fait tes chaussures n'ont jamais le temps de sécher.
Ouais.
Et du coup t'es vraiment vraiment dans le pétrin,
oui,
pour le reste.
Quand tu dis qu'elle fait ça à tous les soirs, je suis là, frère, culotte mouillée jour 3 quand même, ça sèche pas tout. Enfin s'il pleut, tu vois, ça sèche pas de ouf quoi.
Elle le fait en automne, du coup ça va. Et puis bon, c'est quand même dans une région qui est très très au sud.
Oui.
Donc t'as des chances qu'il fasse beau. Après si tu veux, tu peux t'arrêter plus longtemps, tu vois, quand t'arrives dans un gîte,
oui,
t'es pas limité à y passer qu'une nuit.
Et t'es pas obligé de faire tout Compostelle. Il y a des gens qui font des portions aussi.
Tu peux faire des portions, t'arrêter au bout de quelques kilomètres.
Tu fais sécher ta culotte sur ton sac à dos, tu l'accroches et tu la fais sécher comme ça, mais ouais, en tout cas, du coup, elle a chopé un truc avec la fatigue, le stress, etc. intestinale où en fait elle est rentrée, elle a abrégé son séjour durable, enfin vraiment énormément. Et elle est rentrée, elle est restée malade pendant genre 2 mois, quoi.
Waouh, wow. Ouais, c'est vraiment sportif.
Hyper éprouvant.
Et puis bon,
ouais.
Si tu dis qu'elle était en post-rupture, il y a peut-être aussi le truc de tu
vois, émotionnellement
et tout, l'esprit sur le corps, tout ça.
Mais en tout cas, je trouve ça. Je crois qu'on avait parlé dans l'MK aussi à quel point la rando m'aidait à réfléchir. Et ça me donne beaucoup envie de faire un périple comme ça pour la réflexion, parce que mes meilleures idées me viennent en marchant, quoi.
Je comprends. Après, je pense qu'on se. Enfin. Quand on part pour les 45 jours, au bout d'un moment, tu t'habitues, tu te sens rodé et tu as plus d'espace pour réfléchir. Je pense qu'on minimise le degré de frugalité aussi que ça nécessite d'avoir toute sa vie dans un sac à dos pour un voyage de 45 jours et en plus d'être dans des gîtes où, effectivement, tout est une logistique permanente. Et tu vois, elle explique notamment que, avant de partir, on lui explique qu'il y a des portions du sentier où il n'y a aucune épicerie ouverte et que du coup, elle ne va pas pouvoir forcément trouver à manger. Du coup, il faut qu'elle parte avec certains trucs qu'elle va avoir en avance dans son sac en mode « Ok, là, j'ai une boîte de sardines parce que tu ne peux pas porter plus lourd. Et cette boîte de sardines, elle me servira à tel endroit parce que j'aurai rien pour manger le midi. » Et ça, okay, je pense que les 10-15 premiers jours, ça t'obsède en fait. Tu vois, tu as un truc de « Ok, il faut que je fasse en sorte d'assurer mes moyens de survie. » Ce qui sont à la base, nous, au quotidien, c'est pas des questions qu'on a à se poser. Ça t'empêche de te poser toutes les autres, du coup, ça te repose. Et après, une fois que t'as passé cette étape-là, tu peux commencer à réfléchir un peu plus. Mais si tu fais une compostelle pendant une semaine, tu vas pas revenir avec des idées, Anthony. Je suis désolée.
Ok, je retire ce que j'ai dit.
C'est peut-être moins confort que dans ta tête. Merci, Aïda. Ça donne très envie de partir faire de la rando et de lire cette BD. Anthony, c'est quoi ton kiff?
Alors, mon kiff, très brièvement, c'est la house music, le sous-genre de la house music qui est en train de redevenir hype quelque part. Je sais pas si vous connaissez Charlie XCX, par exemple. Elle a sorti un...
Même moi, je sais qui c'est, franchement.
Bah, trop bien. T'es cultivé.
Qui est le maître étalon de la personne est connue musicalement, parce que je connais rien.
Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est la meuf qui avait fait un tube hyper connu à l'époque qui s'appelait Boom Crash Nanana My House. Enfin bref, qu'importe.
C'est elle. Genre, je savais que c'était une meuf connue.
Boom, claps.
Oui, oui. Non, mais j'ai connu la chanson aussi, incroyable.
Mais je chante très mal, je suis désolée. Et c'est aussi le fer de lance d'un genre qui s'appelle l'hyperpop. Vous irez voir si ça vous intéresse.
Un youtubeur musical recommandé, peut-être.
Oh, et bah oui, effectivement, d'ailleurs, maintenant qu'il pense, je crois que Kal Ali a fait une vidéo dessus. Et Kal Ali, ça écrit K-H-A-L, plus loin, Ali, A-L-I. Voilà. Hyper intéressant, j'adore ce type. Voilà. Du coup, elle a fait un titre qui est sorti en mars en même temps que son album Crash qui s'appelle Used to Know Me, qui est un sample de un classique de la house music qui est Break My Show Me Love de Robin Stone qui est sorti en 90. Mmh. Et donc ça fait You Used to Know. Enfin, je vais pas vous le chanter, mais écoutez cette chanson pour des raisons de droit d'auteur.
Je peux mettre des extraits.
On va mettre un petit extrait, trop cool. La magie du montage. Et donc en fait, c'est un sample d'un grand grand classique de la house music, donc on reconnaît plein d'éléments caractéristiques de la house, qui est un genre musical, je vais vous l'expliquer tout de suite après. Mais du coup, juste après ça, il y a Drake qui a sorti un album surprise qui s'appelle Honestly Nevermind, qui reprend aussi plein de codes caractéristiques de la house, donc c'est sorti là, ce mois de juin. Et là, il y a Beyoncé qui vient de sortir le premier single de son futur album, donc ce single s'appelle Break My Soul, il est sorti donc fin juin. Et son album qui apparaîtra, il s'appellera Renaissance, c'est pour juillet 2022, mais c'est une autre histoire. Mais d'après certains éléments qu'on a pu un peu voir de ce futur album, et ben, ça a l'air d'être plutôt inspiré de genres musicaux traditionnellement noirs, dont la house. La renaissance en fait quelque part, mais on n'en sait rien, hein. C'est plein de théories de fans corroborées par des éléments visuels ici et là et des indices dans certaines interviews que Beyoncé donne comme ça au compte-goutte de temps en temps. Là il y a une interview magnifique dans le Vogue britannique qui vient de sortir, c'est une autre histoire. Bref, donc ce que je veux dire,
c'est quoi la rumeur du coup?
Que du coup elle va réexplorer la house music.
Ah ok, que ça va être pas juste un son mais que ça va être le thème de...
potentiellement. Et peut-être d'autres sous-genres musicaux qui sont historiquement noirs en fait. On n'en sait rien, mais ça se trouve elle va réexplorer la house, peut-être qu'elle va aussi réexplorer le jazz, peut-être qu'elle va aussi réexplorer d'autres genres.
Le disco,
ça marche
aussi.
Je savais pas qu'il y avait des fan
disco
théories de quel genre de son va y avoir dans l'album de Beyoncé.
Il y a tellement de théories.
Je suis dans des fan théories de d'autres trucs, hein, donc c'est marrant.
Non, on cherche des indices partout. La Behave est là. Elle rôde, voilà. Et du coup... Pour vous dire brièvement ce que c'est que la house, c'est un sous-genre musical qui est né dans des clubs gays et noirs et latinos de Chicago, notamment un club en particulier qui s'appelle le Warehouse, d'où le nom du sous-genre musical. Du coup, ça viendrait d'un DJ qui s'appelle Frankie Knuckles, qui, dès la fin des années 70, a commencé à, en fait, faut savoir que mixer en tant que DJ, nous, on a l'image de gens qui scratchent leurs disques, peut-être deux en même temps et tout, mais en fait, c'est pas si vieux. C'est assez récent comme façon de mixer. Et Frankie Knuckles avait une façon particulière de mixer, justement, en superposant deux disques en même temps pour faire chanter sur d'autres rythmes. T'as un disque d'une meuf à voix qui chante, et à côté, t'as un mix qui est totalement différent, plus instrumental, plus minimal et tout. Et il superpose les deux pour faire ce qu'on va appeler la house ensuite. Et du coup, voilà, donc c'est des éléments, c'est une rythmique hyper minimale, mais très rapide, donc c'est genre plus que 120-130 BPM, donc battements par minute. Il y a aussi une ligne de basse hyper proche du funk, et il y a aussi des voix samplées dignes du gospel. Et donc si vous voyez You got to show me love de Robin Stone, bah c'est un peu ça. C'est vraiment une musique hyper genre entraînante, genre tu te crois à l'église afro-américaine et tout.
Non, gospel, sur des divas et tout.
Mais ouais, c'est ça. C'est des chanteuses à voix forte sur de la musique électronique mais très minimaliste et de la basse hyper présente avec des rythmes un peu funk, quoi. Donc ça, c'est les caractéristiques de la house. Et du coup, Frankie Knuckles, il fait ça dès la fin des années 70. Il y a d'autres DJ qui ont un peu un style similaire qui sont assimilés à lui. Et à la house surtout, donc comme Ron Hardy qui mixe dans un autre club qui s'appelle The Music Box. C'est un style un peu plus vénère. Il y a aussi Larry Levan qui est à New York, lui de son côté, dans un club qui s'appelle Paradise Garage. Et du coup, toute cette nouvelle clique, en fait, c'est surtout des hommes gays noirs qui se mettent à mixer ce qu'on va appeler ensuite la house. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que ça renaît aujourd'hui parce que c'est pas du tout anodin. A priori, d'après plein de théoriciens et théoriciennes de la musique, c'est en fait souvent on a une réémergence ou une réinvention de musique électronique comme la house, à des moments de crise, en fait, financière, sociale et...
Globalement, politique. C'est la S.
Ouais, voilà. Et donc là, en ce moment, c'est vraiment la S, oui. Comme dans les années 80 à Chicago, dans les quartiers défavorisés, racisés, et comme aussi au moment de crash, de la crise des subprimes à la fin des années 2000, à partir de 2007 aux États-Unis, et donc 2008 vers le reste de l'Occident. Et voilà, en fait, à ce moment-là, on a, à la fin des années 2000, on a un boom de Bob Sinclair, Martin Solveig, David Guetta et tout. En fait, eux, ils font de l'électro-dance music, genre electronic dance music, EDM, qui est clairement inspiré de la house, mais européanisé et blanchisé, disons les termes. Voilà, donc c'est la house remixée pour plaire à des goûts plus continentaux.
Parce parce que j'allais dire, quand t'as dit... Alors, rappelons que je ne connais pas grand-chose en musique, hein, mais quand t'as dit c'est le retour de la house, ça m'a surprise parce que donc, mon mec qui, pour le coup, mixe du son, écoute du son et va en soirée avec des cool kids qui écoutent du son, quand il va en soirée, c'est quasi... Soit c'est de la... une forme de techno que je ne comprends pas, soit c'est de la house. Il va souvent en soirée house, tu vois, à Paris. Et donc j'ai l'impression que pour les cool kids de 25 ans, dont une partie... prend parfois des substances, pas mon mec, mais tu vois ce genre de genre les gens qui vont à la concrète et tout qui allait à la concrète autant où la concrète existait, les gens qui vont au Rex Club, dans ces clubs un peu de voilà de vingtenaires un peu friqués, assez blancs, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soirées house puisqu'il va souvent en soirée house. Après, c'est peut-être pas la house d'origine comme tu la racontes, mais justement la version blanchisée parce que j'ai l'impression que c'est un délire de breton, tu vois, et des gens d'école de commerce.
Ça dépend. Bah, aujourd'hui, t'as quand même toute une scène, enfin autour de Kitty Smile et puis Oney Dijon, enfin t'en as plein encore qui continuent à être des grosses figures actuelles et contemporaines.
Justement, c'est hyper manifeste révélateur que toi tu parles de soirée house. Que fréquente ton mec et que toi tu parles de Kitty Smile et Oney Dijon, c'est justement des soirées dédiées, c'est relativement spécialisé, c'est relativement niche. Et là Drake, Beyoncé,
oui c'est pas aussi mainstream,
c'est ça que j'entends, ouais. C'est que en fait
ça
la house
dans
n'était
la pop,
pas
quoi.
Morte la... oui voilà, ça revient dans la pop effectivement au sens de populaire grand public. La house dans les années 80 quand elle émerge, c'est justement très très niche, c'est des gays et noirs latinos défavorisés de Chicago, et ça a envahi relativement les États-Unis à partir des années 80 et l'Europe aussi, parce que ça en fait il y a plein de DJ des États-Unis qui vont en Europe exporter la house et ça marche très très fort, et donc c'est populaire à ce moment-là, les années 80, de manière mainstream. Et ensuite ça a quitté le mainstream, c'est redevenu un relativement niche, mais ça n'était pas mort évidemment, il y a des soirées house qui existent depuis longtemps effectivement. Et voilà, là, ça redevient hype au sens... Enfin, non, pardon, pas hype, mais mainstream. Voilà, effectivement. Pour cet été 2022. Et c'est ça que je trouve hyper enthousiasmant. Et justement, ça ressemble à un retour aux sources. Ça ressemble à la house beaucoup plus proche des années 80 et beaucoup plus noire aussi. Oui. Même si Charli XCX est une artiste blanche. Hein, mais en tout cas, elle semble, avec respect, avec admiration, Robin Stone, qui est une artiste chanteuse afro-américaine qui chante sur Show Me Love, du coup, qui date de 90. Et donc voilà, c'est, je trouve ça hyper intéressant que ça intervienne en plein mois des fiertés LGBTI+, parce que c'est un genre, un sous-genre musical qui est complètement lié, qui procède de cette communauté-là. Et aussi, ça intervient aussi à un moment où Joe Biden, le président des États-Unis, vient de dire qu'il voulait que juin soit le mois de, des musiques noires, d'appréciation des musiques noires. Parce que justement, il veut rappeler, et ce que tu as répété les communautés noires afro-américaines et afro-descendantes partout dans le monde, c'est qu'en fait, les communautés noires sont à l'origine de plein de genres musicaux. Et c'est souvent ignoré, invisibilisé, voire méprisé. L'histoire est souvent réécrite à ce sujet-là. Là, il y a Elvis de Baz Luhrmann qui vient de sortir au cinéma, qui parle de rock et de Elvis Presley. Mais en fait, le rock
existait avant Elvis, ouais, clairement.
Le rock existait avant Elvis et ça a émané de, d'une femme noire lesbienne et de personnes, d'hommes noirs aussi. Voilà.
Et petite parenthèse par rapport à Elvis, Kalindi a fait son dernier Le seul avis qui compte sur ce film, justement. Et le film, a priori, visibilise pas mal le fait que ça vient justement de sa fin.
Ouais, ouais.
On n'a pas glamourisé Elvis, on m'a dit il a inventé le rock.
Du coup, c'est de la. En fait, c'est justement en plus les compagnies musicales, les industries, les labels et tout, compartimentaient beaucoup en fait. Il y a la musique pour les noirs, il y a la musique pour les blancs, et du coup, on blanchisait littéralement les genres en fait. Du coup, voilà, le jazz, le R&B, le rock, la funk, le compas, le zouk, tout ça, c'est des musiques qui viennent des communautés noires et c'est important de le souligner. Voilà. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, dernière parenthèse, c'est que du coup, Beyoncé, dans son premier single Break My Soul, qui sample également Show Me Love de Robin Stone, elle dit « I just quit my job » et ça dit bien aussi également, ça intervient à un moment de crise sociale, financière hyper importante.
Le chômage.
Bah, quand on peut, effectivement.
Pour une fois, je peux m'identifier à Beyoncé.
Et voilà, en fait, ça sonne presque comme un clin d'œil à ce qu'on appelle la Great Resignation, c'est la grande démission. C'est aux États-Unis, il y a plein et au Royaume-Uni d'ailleurs aussi, il y a plein de gens qui démissionnent de leur taf parce qu'ils sont là, wesh, on n'en peut plus. En fait, on sort de la pandémie, vous nous demandez de payer un loyer, mais en fait, on est où?
Oui, et aussi un truc de ça vaut pas le coup d'être aussi maltraité pour très peu d'argent par rapport à. Enfin, tu vois, il y a eu le Covid qui a tout mis en pause et beaucoup d'industries qui sont. Enfin, on le voit aussi un peu en France, pas tant avec une grande démission, mais avec genre tous les trucs de saisonniers qui arrivent pas à recruter parce qu'en fait les gens sont là, maybe traitez-nous mieux et payez-nous un peu, tu vois, plutôt que juste nous utiliser comme chair à canon et nous maltraiter, ce qui est une réalité.
Surtout qu'il y a eu la réforme du chômage là-dessus qui a pas aidé. Merci, gouvernement.
Merci, on l'adore, pas du tout. Et aux États-Unis, c'est encore plus exacerbé par le fait qu'il n'y a pas de protection des salariés, quoi. Tu peux vraiment être viré en une heure, le salaire minimum est ridicule, enfin, les gens sont payés en pourboire, tout ça. La plus grande puissance mondiale, bien sûr.
Ah voilà, non mais la France, côté code du travail et droits sociaux, c'est autre chose, même si c'est fragilisé de jour en jour, effectivement. Donc,
la gauche.
C'est important de rester conscient et engagé. Et voilà, donc écoutez de la house pour lutter contre la crise.
Astuce anti-somme et anti-crise globale, écoutez de la house.
C'est intéressant, parce que ça montre bien aussi qu'en fait, les gens, ils n'en peuvent plus, ils ont besoin de lâcher prise, et ça se passe aussi sur le dance floor, et le dance floor est politique. Donc voilà, et il faut le décoloniser, comme dirait Abby Beach, Harry Debeu.
J'adore Abby Beach. Oui, le karaoké aussi est politique.
Et si vous avez des titres house que vous aimez trop, du coup, en découvrant tout ce que conseille Anthony, envoyez-les-moi. Moi, j'ai une playlist que je cherche à enrichir absolument là-dessus. Elle s'appelle « Faire de vagues gestes de voguing » par rapport à tous les gens qui sont « Ah, je suis gay, donc j'ai ça dans le sang ». Non, fun fact, c'est un travail, c'est difficile, c'est de la danse. Quand tu ne sais pas bouger, tu ne sais pas bouger.
Et l'homosexualité ne se transmet pas par le sang.
Et non.
Voilà, mais du coup, elle s'appelle comme ça, en référence à ça.
C'était important que je demande, tu comprends pourquoi j'ai demandé.
Mais au niveau des titres musicaux, elle est cool. Juste, moi, je ne sais pas danser, je sais juste hocher la tête.
Mais du coup, les trois titres à retenir, c'est « Used to Know Me » de Charlie XCX, « Break My Soul » de Beyoncé. Et mon titre préféré de l'album de Drake, qui a des influences house, qui vient de sortir, qui s'appelle Honestly Nevermind, mon titre préféré, c'est Massive. Voilà.
Vous avez tout ce qu'il vous faut pour une petite
tout
playlist.
Tout est noté.
Voilà, c'était
Summer
mon
Summer 2022.
Merci
Anthony. Et merci d'avance Mathis pour ce travail de montage avec des extraits du Beyoncé et du tout ce qu'on veut.
Je vais mourir. De joie.
Oui. On repart en voyage après toi, Aïda. J'ai un kiff voyage car c'est de saison.
Trop bien.
Et que en partant de mon travail, je me suis octroyé une semaine de vacances une semaine de vacances hors de France pour la première fois depuis un petit moment car le monde d'avant, le Covid, vous l'avez. J'ai été à Séville en Espagne où je n'avais jamais été.
Ville.
J'ai été passer une semaine à Séville, qui est la capitale de l'Andalousie. C'est au sud de l'Espagne. Côté un peu atlantique, mais il y a pas, c'est pas à côté de la mer, quoi. C'est à bien 120 bornes. Faut pas se dire on va aller à Séville, on va aller à la plage. Il y a pas la plage, il y a un très grand fleuve qui la traverse et il fait très chaud. On y a été en mai, il faisait un healthy 27-29 degrés. On m'a dit en juillet-août, c'est compliqué. Donc voilà, si vous écoutez cet épisode et que vous vous dites j'ai envie de partir à Séville demain, prenez beaucoup de brumisateurs et d'éventail et peut-être attendez septembre. Mais Séville, c'était trop bien. Donc c'est la capitale de l'Andalousie qui est la partie de l'Espagne qui a le plus de liens avec les différents mouvements de population qui venaient du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc toute la période où concrètement il y avait beaucoup d'Arabes en Espagne qui faisaient des califats, qui faisaient des sultanats, qui étaient vraiment des forces politiques en place. Et du coup, c'est une ville avec à la fois un côté très espagnol que j'aime beaucoup, avec déjà le rythme de vie à l'espagnol, la siesta, on adore. C'est dans la partie, voilà, c'est la partie sud de l'Espagne, il fait bien chaud. Donc la vie est un peu décalée, des fois on se levait. Donc j'y suis allée avec une de mes deux meilleures copines, ma petite Fanny, que les auditeurs et auditrices de LMK connaissent bien, puisque Soso et Fanny, c'est la base. On est partis entre meufs, en tête à tête, et on a découvert ensemble la ville, on la connaissait pas. Du coup, il y a toute une partie de la ville voilà, qui vit au rythme espagnol. Donc des fois, on se levait tranquille à 9h du mat. On se disait, on va prendre le petit-déj en arrivant en ville parce qu'on avait un hôtel un peu excentré afin d'avoir une piscine dans l'hôtel. C'était un choix de vie qu'on n'a pas regretté. Et on se disait, on prendra le petit-déj en arrivant en ville. Et vraiment, à 11h, on était encore en train de tourner parce que tous les trucs de petit-déj étaient fermés. Donc on était là, mais les gars, il est 11h du mat. Si vous ouvrez pas maintenant pour le petit-déj, il se passe quoi? C'est quand? Bah, parce qu'en fait, le petit-déj, c'est 11h30 midi. Et puis on déjeune à 15h. Et puis la sieste parce qu'il fait trop chaud l'après-midi. Et après, en échange, la soirée finit tard. Les choses sont ouvertes tard la nuit quand il fait un peu meilleur. Donc ça, c'est un mode de vie que j'aime beaucoup. C'est une ville qui est très belle, très ensoleillée, mais vraiment surtout magnifique en termes d'architecture. Donc il y a une vieille ville et après le reste de la ville qui est un peu moins jolie comme dans tous les coins du monde finalement. Mais le centre historique qui est au bord du fleuve est très très beau. Et il y a un vrai côté petite ruelle dans lesquelles on peut se perdre. Il y a tout un quartier comme ça qui est fait voilà, de toutes petites rues. Et dès qu'on tournait la tête, on était là, oh, regarde, c'est beau, on va voir, on y va. C'est toujours une chapelle random ou une petite place avec, il y avait la plus vieille place de la ville qui est genre une toute petite place à l'ombre d'un immense oranger. J'étais là, oh, ils sont pas finis, il y a de la mosaïque et de la céramique partout. Y compris, il y en a tellement qu'il y en a sous les balcons. Genre non seulement ils décorent leur balcon avec de la céramique, mais quand ils se disent, bah les gens ils passent en dessous du balcon, donc on va pas leur montrer du béton moche, tu vois. Donc il y a des mosaïques sous les balcons,
c'est
généreux. Ils en font trop, ils vont le extra mile, on aime bien. Il y a des orangers partout, c'est mes arbres préférés, c'est trop beau les orangers. Et ça dit des choses sur aussi le réchauffement climatique, donc c'est pas qu'une bonne nouvelle, mais c'est pas que ça je pense. Je sais pas comment ils font, mais ils ont une ville avec des oranges partout qui tombent par terre du coup, logiquement, et enfin c'est des fruits quoi, ils font leur vie, et il y a pas trop de bestioles. Il y a pas là les guêpes et tous ces insectes de mort, de trucs sucrés qui collent. Et en fait parfois tôt le matin, on a vu passer des trucs qui ramassaient les oranges, donc il y a quand même tout un système de ramasser les oranges tous les soirs pour pas qu'elles pourrissent et tout, ce qui fait que il y a plein d'animaux, il y a des très grands parcs, il y a notamment un très grand parc au milieu de la ville qui date d'une exposition universelle, si je dis pas de bêtises. Oups. Et où il y a plein d'oiseaux, plein de vraiment, il y a une belle vie sauvage, mais pas trop de bestioles. Alors peut-être parce qu'on a tué la planète, désolé les insectes, mais étant une personne phobique, ça m'a permis de passer des bonnes vacances. Et du coup, c'est vraiment un truc à faire à taille humaine. C'est pas une immense ville. En gros, le matin, on prenait le bus pour aller en ville et après, on faisait tout à pied. Il n'y avait pas besoin de reprendre les transports. Et c'était trop cool. Les gens sont sympas. C'est touristique, mais pas trop. En tout cas, après, nous, on y était hors saison. Bien sûr, en juillet, août, j'imagine qu'il y a plus de monde et plus de Français, puisqu'en plus, c'est pas très loin. Et on y est allé pendant la semaine de la feria, qui est la feria des April, qui est la première semaine de mai. Il y a un piège. Donc on s'est dit, cool, on y va juste après la feria. En fait, non, c'était la semaine de la feria, qui est un truc. Donc, alors bon, il y a toute une tradition de la corrida, des taureaux et tout à Séville, que nous n'avons pas fréquenté, car c'est pas ma vie d'aller voir des animaux se faire un petit peu maltraiter dans des stades. Mais du coup, la feria, il y a une histoire autour de la corrida, autour de l'élevage et de l'élevage de chevaux et des spectacles avec les chevaux. Et en fait, c'est un spectacle un peu bizarre qui dure toute une semaine et qui prend toute la ville et qui draine énormément de monde du reste de l'Espagne, parce que c'est à la fois un immense événement et en même temps t'es pas vraiment invité en tant que touriste. Donc il y a pas le côté c'est un événement qui va nous faire venir du tourisme d'ailleurs, parce que donc c'est tout un pan de la ville au bord du fleuve. On a mis franchement 4 jours à comprendre c'était quoi le délire de la feria, parce qu'on était là, OK, c'est la feria. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 17h, on voit que des gens trop bien sapés, les meufs en full tenue flamenco magnifique, des chignons qui tiennent tu sais pas comment alors qu'il fait 30 degrés et tout, des éventails en dentelle, et les gars ça va de je suis en costard à j'ai le full outfit traditionnel avec le chapeau avec un ruban machin dessus, tout le monde en calèche, les gos qui font du cheval en danseuse, en demoiselle avec les deux jambes du même côté parce qu'elles sont en robe, même les gamins, tous, on dirait tout le monde va à un mariage tous les jours dans toute la ville
en calèche,
en cheval, en tout ce que tu veux. Donc t'as des chevaux au milieu des taxis, des bus sur la route, on était là mais qu'est-ce qui se passe. Et en même temps on était là, bah, ils vont où tous ces gens, parce qu'une fois qu'on est au centre-ville on les voit plus trop, quoi. Y a pas des foules partout, c'est pas comme les férias genre la feria de Nîmes ou la feria de Arles ou quoi, où c'est l'intégralité des rues qui sont blindées de monde, et moi ça m'angoisse. Donc quand j'ai vu que c'était la feria, j'étais là, oh non, Et après, j'étais là, ils sont où? Et en fait, c'est toute une zone, c'est tellement énorme qui crée une ville éphémère pour la feria tous les ans à Séville.
Wow.
Et là, en plus, ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas eu à cause du Covid. Donc les gens, ils étaient on fire. Il y a tout un pan de la ville au bord du fleuve qui est un peu excentré, qui sert à ça. C'est un genre de... Imaginez un parc des expos où ils ont dressé une porte de ville comme... Donc il y a beaucoup d'architecture maghrébine, forcément. Et pour ceux qui ont déjà vu, par exemple, les remparts de Marrakech ou les choses comme ça, il y a souvent des très grandes portes un peu ouvragées, un peu rondes, qui marquent l'entrée des villes et qui permettaient de les protéger. Donc là, ils ont dressé une fausse porte de ville, mais qui fait legit 20 mètres de haut. C'est un truc énorme, temporaire. Et derrière, c'est toute une ville éphémère de petites casitas en bois semi, on dirait un peu des semi-préfabriqués, des petites tentes avec 3 côtés en dur et 1 côté ouvert. Et c'est des mini-bars en fait. Il y a une scène pour danser le flamenco, évidemment. Il y a un bar, mais genre un vrai bar avec un gars qui te sert, des trucs à pression et tout. C'est pas salut, j'ai ramené ma glacière. C'est en dur, c'est les commerces de la ville qui s'installent, qui louent leurs trucs. Et là où c'est pas ouvert aux étrangers, c'est que pour la plupart, il faut réserver pour entrer dedans, il faut avoir réservé, ou alors il faut être sur liste, il faut être coopté, il faut que quelqu'un t'amène. Donc en tant que touriste qui connaît personne, nous on était là, bon en plus on parle pas espagnol et tout, donc on avait pas trop d'intérêt à y aller, et il faisait 4000 degrés, mais du coup t'as toute la ville qui converge ultra sapée dans une ville éphémère de 1200 je crois, ou 1500 casitas, où il y a donc énormément de bars, restos, il y a des trucs qui vendent de l'artisanat traditionnel, il y a des trucs sur l'histoire de la ville, il y a des spectacles, il y a une fête foraine géante, il y avait genre 2 grandes roues différentes, on était là, mais ce qui se passe.
J'ai trop envie d'y aller.
Donc, il y a la feria qui a l'air d'être une zumba quand même à voir dans sa vie. Et une des. En fait, j'avais mis sur Instagram que j'étais à Séville. Il y a quelques mademoiselles qui m'ont dit: ah bah j'habite à Séville, si tu veux que je te fasse visiter. Donc, merci les filles, trop cool. Je n'ai pas saisi l'opportunité, mais j'ai hésité. Et il y en avait une qui a dit: si vous voulez que je vous fasse rentrer dans les trucs de la feria, parce qu'il faut être sur liste. Et nous, c'était jour 1, on était là: quoi? Faut être sur liste pour aller à la feria? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le temps qu'on comprenne, c'était un peu tard. Ça a l'air d'être une expérience à vivre. Mais en dehors de ça, Séville, c'est même sans faire la feria, c'est trop beau. C'est pas très cher dans le sens où on s'en est sorti pour quelques centaines d'euros par personne pour 5 jours, ce qui va bien. La bouffe, surtout, la bouffe et les boissons sont pas très très chères. C'est tout un système de tapas à l'espagnol où tu payes 4 fois 4 balles et t'as plein de petits trucs très très bons à manger. Les gens sont... Il n'y a pas ce côté qu'on peut avoir à Barcelone ou sur la côte Est où les gens en ont marre du tourisme et en ont marre des touristes français parce qu'on n'a pas la meilleure réputation. Je pense qu'à Séville, il y en a un peu moins. C'est moins la ville auquel on pense quand on dit l'Espagne. Du coup, il n'y a pas ce côté un peu saoulé de voir des touristes françaises, donc c'est cool. Et niveau histoire et architecture, c'est trop bien. Donc on a visité des palais, on a visité une cathédrale qui est aussi une mosquée parce qu'il y a un minaret, parce que du coup, ça s'est tiré la bourre entre différentes populations. Et c'était hyper intéressant de croiser ça avec à la fois apprendre l'histoire de Séville. En gros, on voyait des trucs, on notait des noms, et après on se posait, on buvait un truc frais et on regardait sur Wikipédia un peu ce que ça racontait. Et on s'est retrouvés, donc on se faisait la lecture à voix haute de voilà tel palais, parce que c'est que des trucs de... En gros, tous les 100 ans, ça change de... Les dynasties, elles durent entre 8 et 100 ans. Dès que c'est un rapid fire de machin a été détrôné, machin a été assassiné et tout, donc faut suivre. Et on essayait de suivre le truc. Et on s'est retrouvés à un moment à côté d'une famille marocaine dont le papa était en train de faire un podcast sur... Enfin, avait participé à un podcast et un livre sur l'histoire du Maroc, et notamment sur les liens entre le Maroc et l'Espagne. Et il nous a mis un prisme hyper intéressant là-dessus, sur le fait qu'en gros, l'histoire est racontée par les vainqueurs, évidemment, et l'histoire occidentale est racontée par les blancs, et que du coup le roman national espagnol, et par extension celui que nous on a en France, c'est que l'Espagne a été envahie, conquise par les Maures et donc les Arabes, qui donc ont envahi ce territoire qui n'était pas le leur, et qu'ensuite l'Espagne a reconquis son territoire. C'est la Reconquista, le nom de la période historique, comme nous on a la Révolution française. Et en fait c'est un prisme qui est biaisé aussi parce que en fait les Arabes ont été là pendant littéralement des centaines d'années, donc les Espagnols qui ont reconquis leur pays avant, c'était pas vraiment l'Espagne, c'était plein de royaumes différents. Donc qui a reconquis quoi? Il y a des peuples qui habitent là depuis des centaines d'années et d'autres gens qui arrivent et qui les foutent dehors. Est-ce qu'ils ont reconquis leur pays ou est-ce qu'ils ont juste conquis un pays et colonisé un peuple et foutu des gens dehors? Enfin, c'était intéressant et du coup on a parlé voilà de la blanchisation de l'histoire. Donc c'est cool de voir cette partie de l'Espagne qui a une histoire très riche et très variée et qui brasse, même là je parle beaucoup des Arabes, mais il y a eu des Vikings qui ont pris Séville, il y a eu des Normands, il y a eu des Français, enfin des Francs, il y a eu de tout parce que c'est une plaque tournante via son fleuve et le fait que du coup il y a pas mal de minerais aussi apparemment autour, donc c'était assez vite un gros centre économique. Et bref, c'était hyper important, hyper intéressant. Moi j'aime bien le tourisme un peu historique, je suis pas toujours très musée, mais j'aime bien apprendre des trucs sur l'histoire des endroits. Et là, tout était beau, vraiment. Juste se balader, c'est super. Faire des lieux historiques, c'est super. Et si vous aimez la Rome antique, bah il y en a. Si vous aimez la Grèce antique, il y en a. Si vous aimez l'histoire des pays arabes, il y en a. Si vous aimez l'histoire de l'Espagne, il y en a aussi. Il y a de tout. Il y en a pour tout le monde. Séville, c'est trop bien. Donc, allez à Séville.
Et la bouffe était bonne et pas chère.
Oui, et la bouffe était bonne et pas chère, et la sangria aussi.
Et les gens étaient bien sapés, wesh, invitez-moi.
Franchement, non mais les looks incroyables. Nous on était là, tu sais, en plus habillé en touriste, vraiment short t-shirt, tu sues, on était un peu en mode désolé, on savait pas qu'il y a un dress code. En même temps, on voulait pas faire ce move d'aller acheter une tenue traditionnelle, car bon, on est quand même très peu espagnol. Oui. Mais peut-être que la prochaine fois. Franchement, j'y suis partie en me disant, j'ai envie de me faire un mois à Séville où je loue un appart hôtel ou je sais pas quoi, et je dis aux gens, venez si vous voulez, et juste je me fais un mois solo à Séville à aller écrire sous des oranges. Enfin, moi dans ma vie, je suis là, j'écris dans un carnet à la main, ce que je fais jamais littéralement de ma vie. Aller écrire sous des orangers. Et aussi, il faut le dire, deux meufs, short et tout, 30 degrés, zéro harcèlement de rue, zéro interaction relou avec la moindre personne, alors qu'on était solo, des fois on s'arrêtait en plein milieu d'un parc boire une bière, on était très clairement pas d'ici, on avait une dégaine de tourisme, ma pote elle avait son appareil photo autour du cou, il y a plein de pays, plein d'endroits, plein de villes où on serait fait emmerder et où on aurait dû être sur nos gardes de « Ah attends, est-ce qu'on se pose là? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs relous qui traînent ?»
À commencer
là,
par Paris.
La sélection voilà. Française.
Là, rien du tout, même le soir où les gens étaient quand même bien bourrés dans la rue, il y avait des soirs de match et tout. Personne nous est chié. Donc, prenez des notes. C'est pas si dur de pas faire chier les meufs en short en été. Voilà. Voilà, c'était mon kiff. Allez à Séville.
J'ai envie de partir en vacances.
Merci, Mimi.
C'est la fin de cet épisode. Time to boire du chardonnay en soirée karaoké. Merci.
Pour finir le montage du Seul avis qui compte qui sort pour vous le vendredi dernier. Sur Elvis, écoutez-le.
Oui. On se retrouve jeudi prochain, du coup, le 30 juin, à 20h, sur la chaîne Twitch de Mademoiselle pour un épisode en live. Et après, il y a des épisodes 200, 210, 208,
rien, nous
on ne sait pas. Voilà. Ils vont sortir
une timeline.
Voilà, c'est Laisse-moi kiffer, c'est tous les jeudis, vous le savez. Et c'est super. Merci, chère équipe.
Merci
chers auditeurs et auditrices. Et à la semaine prochaine. Bisous.
Des bisous.
Merci les
LMKers,
on vous adore.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.